RMC, l'After JO.
David Douillet, Jean-Louis Tour.
Bonsoir à tous, c'est l'After JO jusqu'à 1h du matin avec encore des bonnes choses pour le sport français à débriefer ce soir, notamment la qualif des basketteuses à l'instant pour la finale olympique. David Douillet est là. Il a passé encore une grosse journée. Salut David.
Ça va Jean-Louis?
Bah, très bien.
T'es à la patate, t'es en pleine forme.
Ah bah, j'ai la patate, on n'a pas le choix, on a tellement d'émotions.
Bah, en fait, tu bosses pas. Parce que moi, je suis cuit.
Ouais. Bah, j'essaie d'oublier que je suis cuit.
C'est ça. Bon, bah, je vais faire pareil.
Voilà.
Je ne suis pas cuit.
Yannick Bazin est avec nous également. On va parler de la finale du volley de demain, notamment avec lui. Salut Yannick.
Salut tout le monde.
Donc, plein de choses au programme. Évidemment, les performances du jour. Les médaillés français sont sur RMC. Ici, au Club France, on sera tout à l'heure avec les frères Lebrun, qui ont, avec Simon Gauzy, offert la 55e médaille à l'équipe de France, le bronze ce matin.
Oui.
La 56e médaille, elle est venue du foot, l'équipe de France qui a perdu en finale face à l'Espagne.
Oui.
On y reviendra avec Laure Lepailleur tout à l'heure. Et puis découverte aujourd'hui, le breaking,
oui.
Le breakdance. Ça fait beaucoup réagir. Est-ce que ce sport a sa place au jeu? On se posera la question. Il y a notamment la fédé de karaté qui n'est pas contente.
Oui, puisque, c'est
étonnamment.
Voilà,
et mais c'est normal. Enfin bon, c'est mon point de vue.
Eh bien, écoute, tu nous le diras tout à l'heure.
Oui.
Et puis si vous êtes fan de breaking, vous pouvez venir au 32-16 pour nous dire ce que vous en avez pensé. L'athlée également, on reviendra sur la journée des médailles en chocolat. Hein. Les quatrièmes places pour l'équipe de France, terrible, que ce soit sur le relais 4x100 féminin ou pour Clément Ducos sur le 400. Et on sera avec Renaud Longuèvre, Aurélien Tiercin et Pierre-Ambroise Bosse pour parler de Gabriel Tuel demain sur 800 mètres.
Ouais.
On commence.
Ça sera notre dernière chance de médaille pour
là. Ouais, je crois, là, en athlée, ouais. En même temps, après, c'est fini. Hein, donc,
mon silence veut tout dire.
Tu diras ton silence à Renaud Longuèvre, comme tous les soirs, tout à l'heure. Le basket, tout d'abord, Stephen Brun est avec nous dans la zone d'interview, là où les filles donc sont en train de célébrer, puisqu'elles se sont imposées face à la Belgique. Salut Steve.
Salut Jean-Louis, salut tout le monde. J'attends les joueuses françaises qui célèbrent sur le terrain.
Exactement, les françaises qui sont en finale, donc ce sera face aux États-Unis. 15h30 dimanche. On a envie de les entendre, les joueuses là qui sont en train de célébrer. Parce qu'elles sont passées par tous les états, Stephen. Hein. Encore une fois, on s'est vu pas bien. Hein.
Match laborieux des joueuses françaises prises par la pression, par l'enjeu. Ça a été dur, rien n'a été contrôlé, on est à plus 6 à 50 secondes de la fin, on fait une faute sur un tir à 3 points et puis après on prend un tir à 3 points, on fait pas faute, on se retrouve à jouer 5 minutes supplémentaires dans un état de stress extrême et puis on s'en sort. Gabby Williams, c'est fantastique en prolongation, on passe par la petite porte, bravo aux joueuses belges qui ont fait un match énorme, mais ça sera un week-end franco-américain, Jean-Louis.
Eh oui.
France-USA samedi chez les garçons, France-USA chez les filles dimanche. Alors dans aucune des deux confrontations par favori, je ne vais pas te mentir, et c'est même encore plus dur chez les filles puisque les Américaines n'ont pas perdu depuis une demi-finale en 1992
aux
Jeux Olympiques.
Ah oui.
Ça fait un moment déjà.
Donc tu donnes les Américaines vainqueurs, c'est ça?
Oui, je donne les Américaines vainqueurs.
Donc on va gagner.
Okay.
Non, je suis pas sûr qu'il passe à chaque fois ce théorème.
Ah merde. Pardon.
Oui, donc oui, en basket donc féminin, on a encore moins de chances de gagner que chez les garçons.
Ouais, c'est beaucoup plus compliqué. L'écart est encore un petit peu trop grand parce que il n'y a pas encore de. Nous, on a eu des joueurs français, des Européens très dominants en WNBA. C'est pas encore tout à fait le cas chez le basket en NBA. Pardon, c'est pas encore tout à fait le cas chez les joueuses européennes. Alors Emma Mismann qui était avec la Belgique a dominé un petit peu la NBA, mais il y en a pas énorme, il y a encore un petit fossé entre ces grandes, très grandes joueuses américaines et les meilleures joueuses européennes. Le fossé va se resserrer, mais il y a encore un gap quand même.
Je te contredis juste pour la forme, mais on a le public, voilà.
Oui, on a le public, mais le public, je ne sais pas si ça va suffire hein,
bah, voilà.
Contre ces joueuses américaines.
Ouais, c'est ça le problème.
Là, c'est la première fois qu'on voit quand même l'équipe de France autant en difficulté ce soir.
Oui, t'as raison. Autant, j'ai même trouvé les Françaises meilleures lors de leur défaite en poule face aux Australiennes. Là, il y a eu beaucoup d'approximations, beaucoup de ballons perdus, ça a été compliqué. Le stress, je pense que ces joueuses-là, elles ont été stressées, très stressées. Et puis, il y avait cette revanche de 2023, c'est ces Belges qui nous sortent en demi-finale de l'Euro. Donc, il y a peut-être, je ne parle pas de complexe d'infériorité, mais aussi difficile de jouer cette équipe-là qui était sur le toit de l'Europe et qui a réalisé une très belle compétition.
Les joueuses arrivent là, elles s'approchent.
Là, elles font les télés pour le moment, Jean-Louis.
Mais Stephen, tu dis qu'elles sortent. Elles sortent un petit match ce soir, mais je trouve ça plutôt rassurant de se qualifier en finale des Jeux Olympiques
en ayant fait
un match, on va dire, plutôt moyen. C'est quand même rassurant.
Oui, c'est rassurant, mais il faut que les gens à l'antenne, les auditeurs d'RMC, se rendent compte que ce qui va s'opposer à nous.
Ouais, de la difficulté, c'est ça.
Voilà,
ouais.
Il faut se rendre compte de ce qui va s'opposer à nous dimanche. Et c'est exceptionnel. On parlait des Avengers chez les garçons. Là, c'est ce qui se fait le mieux au monde en termes d'intensité, de taille. Ils ont Britney Greener qui fait 2m02. Il y a tout en magasin. Il y a des joueuses de 41 ans pour qui c'est les 6e Olympiades. Donc c'est très complexe ce qui se propose à nous dimanche. Je ne dis pas que c'est impossible. Les Américains n'ont pas joué encore un seul match compliqué du tournoi. J'ose espérer que ça va être contre nous dimanche.
C'est David contre Goliath.
Impossible n'est pas français.
Impossible n'est pas français, mais bon, quand on a un mur ou une équipe trop forte en face, je veux dire, au tennis de table, oui, on n'a pas battu les Chinois, au tir à l'arc, on n'a pas battu la Corée, enfin voilà.
Oui, les 13 000 personnes, c'est bien, mais les 13 000 personnes, c'est pas eux qui tirent à 3 points.
C'est ça.
Ouais.
Moi, je suis prêt à y croire, je suis prêt à m'enflammer, etc. Mais à un moment.
Est-ce que les Américains peuvent passer au travers?
Qu'est-ce qui se passe, David?
Non, mais si on avait raisonné comme ça, on n'aurait jamais fait de médaille. Hein.
Non, mais
je suis d'accord, mais là, je suis en train de mettre en place.
Oui, je sais.
Les spectateurs
mais t'as raison en plus. Hein.
Mais on a raison de rêver, on a raison d'y croire. J'espère que ça va être la mentalité des joueuses françaises. Je vais leur poser la question d'ailleurs. Que ce soir, c'est pas l'aboutissement, la finale, qui est un match
voilà,
à jouer.
C'est ça.
Mais il faut aussi se rendre compte de la grandeur de l'équipe qu'on va affronter dimanche.
Bon, en tout cas, ça fait une médaille en plus tout ça. Hein. Donc, je fais un point comptabilité.
Oh, Jean-Louis, qu'est-ce que je vais être content de revenir à la rédac au mois de septembre avec mes deux.
Ah, bah toi, tu vas te régaler. Ah, bah tu vas te régaler.
Ah, tu vas te la péter.
Là, dans le Moscato Show, tu vas arriver.
Il va se la péter.
Ça
va être
la folie. Ah, bah oui. Bah oui.
Bah, déjà avant c'était compliqué.
C'était la Coupe du Monde là où on se fait sortir en poule.
Exactement.
Ouais, elle était dure.
On est catastrophique.
Elle était dure à digérer.
J'en ai pris pour mon gars.
Voilà. Là tu pourras fanfaronner.
La revanche justifie.
Voilà. Bon, après tu seras face aux rugbyman qui ont pris médaille d'or aussi au rugby à 7. Hein.
Oui, mais pourrais éventuellement leur sortir d'autres choses au rugbyman si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, je te parle même pas. Je te parle même pas du judo. Hein.
Ah, le judo. Ouais. Tu vas pas fanfaronner devant les judokas.
Alors le judo, ce qui est sympa, c'est que vous êtes exceptionnel. Après, on vous entend plus pendant 4 ans, donc on donne rendez-vous en 2028, David.
Ça c'est le petit rire de j'ai pas envie de faire du vexer David, donc je vais mettre un rire à la fin.
Mais jamais il me dit ça en studio.
Ah
jamais.
Oui. Ah bah bien
il faut
sûr.
Qu'il soit à Bercy là, tu vois.
Ah, c'est ça.
Hein
donc, ma petite comptabilité du tableau des médailles. Donc, on était à 54 ce matin. On en ajoute 2 donc aujourd'hui avec le tennis de table et le foot. Ça fait 56. On en a 3 en suspens. Le basket masculin, le basket féminin et le hand féminin demain. Donc on est à 59 potentiellement. Mais attention parce que là le tableau des médailles c'est pas dingue. On est passé 6e. Puisque le Japon nous a dépassé.
Mais non, Japon.
Et le Japon.
Ah ouais,
c'est pourquoi
la lutte
et au breakdance.
Au breakdance.
Ils ont pris une médaille d'or en breakdance.
Oh non.
C'est terrible, hein.
Ils ont un b-boy, les Japonais, exceptionnels.
Ils ont exactement un b-boy. On en reparlera tout à l'heure du breakdance.
T'en fais du breakdance, c'est pas possible.
Comment ils font ? Non, j'en fais pas.
Tu fais du breakdance.
Non, j'en fais pas.
Tu sais que tous les breakers là,
ouais.
Donc ils s'appellent B-Boy quelque chose avec un surnom.
D'accord.
Toi on pourrait trouver un de
par exemple. B-Boy Youyette.
B-Boy Steve, tu vois, pour Stephen Brown.
B-Boy la douille. B-Boy la douille, voilà. C'est bien.
Je sais pas moi. B-Boy la base. Ah, bon, Yannick Bazin.
B-Boy la base.
B-Boy la vie, je sais pas, tu vois.
B-Boy Round, bonjour Louis Tour.
B-Boy Round, si tu veux. Et David, faut trouver. Bon voilà, on part à du breakdance tout à l'heure à minuit 40. Est-ce que ça a sa place au jeu? Donc on se fait doubler par le Japon et par les Anglais aussi. Hein. Ils sont à 14 médailles d'or comme nous, mais une médaille en plus, 57 contre 56. Hein. Donc là, on est hors top 5, hors objectif fixé.
Je crois qu'on a quelques finales à faire encore.
Ah, on a des finales à faire, oui.
Et les Japonais, non?
Bah, les Japonais.
Ils sont où les Japonais dans les sports courts?
Ah,
mais ils sont où?
Ils sont pas dans les sports.
Mais ils sont où? Alors
au basket, c'était un vrai flop parce que les filles étaient vice-championnes olympiques chez elles il y a 3 ans et là elles sont pas sorties des poules.
Ils ont failli nous battre chez les garçons. Hein. Ils ont joué un miracle, un panier à 4 points.
Un tournoi merveilleux, mais ils sont pas sortis des poules non plus.
Ouais, on profite en fait.
Ah, je crois qu'il y a des joueuses qui commencent à arriver là, Stephen.
Ouais, il y a la capitaine Sarah Michelle Bowie qui est avec nos collègues.
Bon, tu nous interromps dès que t'as quelqu'un. Jean-Jacques est avec nous au 32-16 dans l'After JO sur RMC. Salut Jean-Jacques.
Salut les gars, comment ça va?
Salut Jean-Jacques.
Salut.
Bon, tu veux nous parler de quoi Jean-Jacques?
Bah écoute, c'est super. Très très belle soirée. Un peu les chocottes sur la prolongation.
C'est foot ou basket?
Basket.
Ah,
parce que tu pourrais parler du foot là.
Attends Jean-Jacques, parce qu'il y a Gabi Williams avec Stephen Brun. Oh,
okay. Gabi, t'es en finale des Jeux Olympiques avec la France, Gabi.
Oui. Oui, c'est ça, normalement, je pense que c'est ça, oui.
Quel match incroyable, vous nous avez fait peur. Vous êtes à plus 6 à la fin du temps réglementaire. Je pense qu'il y a des petites erreurs, mais c'est pas grave. Vous donnez 5 minutes de suspense supplémentaire.
Ouais, les choses comme ça, ça arrive. C'est les Jeux Olympiques. Du coup, j'ai dit à tout le monde, c'est normal. Franchement, les trucs de malade, ça arrive. Mais on est resté calme, on est resté ensemble. Et je pense que c'est là quand ils ont commencé à craquer parce que nous, on n'a rien lâché.
À la fin, vous n'avez plus de jus. Toi, tu avais encore du gaz sur la prolongation. Sur ta main droite, là, tu les as tués.
Bah, j'avais deux fautes au début de match. Du coup, j'étais bien reposée.
J'ai vu, tu t'es fâché contre Jean-Aimé au début quand t'es sorti.
Il a cru que j'avais trois fautes et j'avais deux. Donc voilà, on passe à autre chose. Mais j'étais bien reposée pour la fin. Donc ça a marché.
Gabi, dimanche.
Dimanche.
Tu sais contre qui tu joues?
Faut qu'on se batte, faut qu'on... On est en fait. Ça va pas être facile, évidemment, mais rien qui est pas possible, quoi. Pardon. Tout peut arriver sur un match, donc on va juste tout donner.
Félicitations, Gabi.
On Merci. Va y croire.
Félicitations, Gabi.
Merci.
Gabi Williams avec Stephen Brun, donc dans la zone d'interview. J'ai oublié une médaille là dans mon tableau. Et toi, tu dis rien. Il y a le volet aussi.
Ah, mais si tu commences à oublier le volet, qu'est-ce
enfin,
que je te dise.
Donc on a 4 médailles en suspens, donc on est à 60. Ouais. Voilà. Donc c'est un très beau total.
Bon.
Mais l'objectif fixé, c'était top 5 quand même.
Ouais, c'était le top 5. Bon. Mais à partir du moment où c'est l'or qui détermine le top 5, moi je trouve ça pas juste en fait.
Voilà. Ah oui, de faire le classement comme ça.
Mais évidemment, pourquoi l'or? C'est le nombre de médailles qui reflète la puissance sportive d'un pays. C'est pas le nombre de médailles d'or, c'est pas vrai. Donc moi, cette comptabilité-là me plaît pas et je trouve qu'elle est pas juste.
Voilà. Oui, t'es plus sujet à l'aléa en plus, parce que parfois entre l'argent et l'or, ça se joue sur
mais
un combat,
joue à rien,
coupé, et puis, pas grand-chose.
Et puis sincèrement, quand t'es athlète, c'est le podium qui compte, tu vois, avant tout. Et puis après, l'or, si plus, si affinité. Mais,
Stephen Brun nous rappelle avec Iliana Rupert désormais.
Ah, très bien.
Iliana, je suis très contente parce que tu vas être la deuxième médaillée de Stephen Time après Enzo Lefort, donc félicitations. Non, blague à part, Iliana. Quel match exceptionnel. Raconte-nous ton tournoi, parce que toi, tu démarres le tournoi olympique, tu joues 0 minute. Donc, on se pose des questions et tu es la meilleure joueuse des demi-finales qui nous emmène au final olympique face aux Américaines. Raconte-nous ce qui s'est passé dans ta tête depuis 10 jours.
Mais je me tiens prête. Voilà, je me dis que c'était peut-être pas mon moment au début, mais voilà, je perds pas confiance. Mes coéquipières aussi m'en sont beaucoup derrière moi. À chaque fois, avoir des petits mots, pourquoi justement que je lâche, parce qu'on peut craquer et voilà, elles m'ont aidé, elles m'ont poussé à chaque fois et c'est aussi grâce à elles que j'arrive à faire ce genre de prestations ce soir.
Iliana, t'as quel âge?
J'ai 23 ans.
Iliana, t'as 23 ans, t'as tout gagné déjà. T'as gagné la WNBA, tes médailles d'argent à Tokyo et à 23 ans, tu es de nouveau finaliste des Jeux Olympiques. Mais cette fois-ci, j'imagine que tu veux voir un peu plus haut, non, dimanche soir?
Mais ouais, j'aimerais aller voir un peu plus haut. C'est vrai que depuis le début de cette compétition, c'était notre objectif, mais on le gardait un peu pour nous parce qu'on était étape par étape. Et là, voilà, on peut enfin dire à voix haute qu'on veut cette médaille d'or et avec le support des fans qui nous poussent et ça, on va y arriver.
Les Américaines, tu connais, je vais te faire un petit rappel historique, elles n'ont pas perdu depuis une demi-finale 92 en tournoi olympique. Ça, il faut l'enlever de votre tête. C'est jouable pour toi? Il y a vraiment quelque chose à faire contre cette équipe-là?
C'est jouable. On voit que depuis ces derniers mois, ces dernières années, que les équipes, l'équipe des États-Unis, l'écart se réduit. Je ne dis pas que ça va être facile. Ça va être vraiment un combat, encore une fois. Mais on a les armes pour et voilà, il ne faut pas qu'on se mette de limites.
Bravo, Iliana. Félicitations.
Merci.
Ah, t'aimes ces discours, non, David?
Ah oui, moi j'aime les discours des joueuses. Moi celui de Stephen. Il vient lui rappeler qu'elles n'ont pas perdu depuis 92.
C'est important, le petit rappel historique, comme ça pour faire des sens plus tard. Mais tu sais pourquoi je lui dis ça?
Mais t'es nul, soir, t'es nul comme coach.
Non, mais tu sais pourquoi je lui dis ça? Parce que dimanche soir, quand elle sera championne olympique, en interview, elle reviendra, elle dit les Américaines qui n'avaient pas perdu depuis 1992 en demi-finale,
on
les a tapés.
Mais non, mais que tu lui dises dimanche soir après le match, ça me va, mais pas avant.
C'est ma petite, Iliana.
Ah bah ouais, tu viens de lui mettre une chape de plomb sur les épaules.
Ah là là.
Bon, Jean-Jacques,
qui vous voulez?
Bah, je sais pas qui on a. On a quelqu'un sous la main ou pas? Non, mais attends.
Écoute, il y a Marine Johannes et Valeriana Yahi qui vont tourner des popotes, donc elles vont arriver dans 3-4 minutes. Donc vous avez le temps de laisser la parole à notre ami Jean-Jacques.
Jean-Jacques au 32-13, donc. Donc tu t'es régalé avec cette équipe de France de basket?
Ouais, c'est énorme. La prolongation, Gabi Williams à la fin, la petite photo qui a défendu dur. La petite Cooper, c'était top. Top gros match. Et puis, je vais dire shoot-out aux Belges. Mais voilà, il faut les féliciter aussi parce que pour faire un gros match, il faut deux grosses équipes. Et les Belges, ils ont tout donné. Et c'était un vrai, vrai beau match de basket. féminin, il y a eu de belles choses. Et puis pour nous, bah voilà, c'est la finale contre l'ogre américain, encore une fois. Donc voilà, c'est top. Au pire, on fera argent. Au mieux, on fera or et ce sera exceptionnel. Et ça va être le plus beau résultat pour une équipe.
Ton avis, Jean-Jacques, sur qu'est-ce que tu penses de cette finale? Qu'est-ce qui va se passer pour toi? On va gagner ou,
Après, honnêtement, si je te dis qu'on gagne, je serai un menteur. Parce que je pense que l'équipe américaine est largement au-dessus. Encore une fois, après, voilà, ces équipes-là, elles n'aiment pas défendre. Et ça va dépendre comment on prend le match. Si on vient et on les agresse sur chaque possession, on les force à défendre. On les force à aller se battre pour bon et à faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et ben pourquoi pas. Si on y va et qu'on essaie de rester une espèce de basket académique, sans y aller, sans jouer sur notre qualité athlétique et physique aussi, et sans notre jeu, la percussion qu'on peut avoir, et ben je pense que ça va être compliqué. Voilà, je pense que ces équipes-là, quand elles sont plus fortes que nous, il faut les agresser, faut pas hésiter à y aller.
Ben, je suis d'accord avec toi.
Elles sont dans un bon état d'esprit et vont le faire.
Bah ouais, parce qu'elles vont tout jouer, elles vont laisser leur vie sur le parquet, c'est certain. Elles vont les agresser, elles vont les bousculer, elles vont leur mettre du physique.
Ne pas les respecter, surtout.
Et puis ça va marcher.
Il faut les respecter, bah surtout. Oui.
Et elles vont douter, et là, il y aura des opportunités.
Voilà, il faut surtout pas les regarder, surtout pas les regarder.
Oui. Et ben on y croit, scénario.
Moi, j'y crois.
Et on sera derrière les Françaises. Merci Jean-Jacques. On a un week-end de dingue hein, quand même. Hein. Faut le saluer d'ailleurs et remercier nos équipes de Sportco parce que ça nous permet d'avoir une fin de jeu absolument formidable.
Au début comme à la fin. Ça a commencé par le rugby et ça se finit par le BHV. Quoi.
Et ça sert de feuilleton, de fil rouge tout au long des 15 jours. Donc on va avoir demain finale du volley, finale du hand féminin, finale du basket masculin à 21h30 et dimanche donc finale du basket féminin.
Et c'était pas écrit qu'ils soient tous au rendez-vous.
Non, il manque une équipe.
C'est incroyable.
Il
manque le hand masculin.
Il manque juste le hand masculin et c'était pas écrit parce que ce soit le basket masculin comme le hand. Bon, le hand, ils sont sortis, mais même sur les féminines, tout le monde était dans le doute, on sait pas comment. Même sur le volet, parce que moi, je me souviens au début du tournoi, la poule, elle est énorme, il y a beaucoup de monde et tout, les pas sûr qu'on sorte de la poule, c'est compliqué.
Ah, moi, le premier, j'étais pas sûr du tout.
Et là, tout le monde brille, quoi. Tout le monde brille. Et c'est passé à rien pour les hommes du hand.
Il y a juste une chose, c'est que tous les sportco, garçons, filles, à chaque fois, dos au mur, on arrive toujours à trouver ce petit regain de forme, cette petite énergie. Je pense, est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? Ouais. Là, on a un mur devant nous et derrière, à chaque fois, poussé par le public, une petite réaction d'orgueil. Et on arrive toujours à passer. Et ça, je trouve ça dingue.
Ouais, c'est l'état d'esprit.
Seule équipe de Sportco qui a déçu, c'est le foot féminin. Sorti en quart de finale. Mais ils ne sont pas habitués à gagner comme toutes les autres équipes qu'on a citées. Hein. Donc voilà. L'athlé.
Ça, c'est un petit tacle, ça.
Bah non mais c'est vrai quand même.
J'ai pas dit que c'était pas vrai.
Non mais le foot féminin honnêtement moi j'ai pas digéré. Mais bon après c'est pas grave, on est passé à autre chose hein, on va pas disserter pendant des heures. Mais on était censé ramener Hervé Renard qui allait apporter un truc en plus etc. À l'arrivée aucune progression dans cette équipe. Et on a même pas vibré, on a même pas, tu vois, le foot masculin il sort aujourd'hui. Mais au moins on a vibré dans le match, ils sont revenus à 3-3, il s'est passé plein de trucs. Avec les filles il s'est rien passé.
Et pourquoi?
Pourquoi?
Oui.
Bah non, mais ça, c'est pas moi de le dire.
Parce que tu sais des choses. Et moi, je sais que tu sais des choses.
Non, là, sur l'équipe de France féminine, je sais pas. Je pense qu'on n'a pas un haut niveau de base.
Tu t'en sors bien.
Non, je sais pas, mais moi, je suis là pour poser des questions.
Tu t'en sors bien.
Je me retrouve là à devoir répondre à tes questions. Là. Demain, les garçons, Steve. Est-ce que t'es resté sur ton idée d'hier soir ou est-ce que
c'était laquelle mon idée d'hier soir?
C'était de dire que ça va être très compliqué, qu'on a très peu de chance. Voilà. Est-ce que quand même t'as trouvé?
Il est quand même dans le 80. T'avais dit 80-20, c'est
85-15, il a dit.
Ouais, 85-15.
Bon, t'es toujours là-dessus?
Je peux te dire un 84-16, si ça t'intéresse.
Non, tu dis ce que tu veux,
Jean-Louis. Non, j'ai pas changé. Ce matin, j'avais une petite matinée off. Je me suis refait le match d'Éricain contre les Serbes en entier à la télé, puisque quand tu commentes, t'as pas forcément la même perception.
Ouais, bien sûr.
J'aime bien revoir les matchs. Le match que fait les Serbes hier, il est quand même
il est volumineux.
D'un niveau exceptionnel. Ouais, ouais, il est d'un niveau exceptionnel en termes d'adresse surtout.
Ouais.
Et ma crainte, c'est que sur nos joueurs extérieurs, je ne suis pas sûr qu'on soit capable d'avoir ce niveau d'adresse qu'ont eu les Serbes, qu'ont eu Bogdanovic, qu'ont eu Avramovic, qu'ont eu Dobrić. Maintenant, on a d'autres armes. Je pense que défensivement, on est un peu meilleur que les Serbes, parce que les Serbes sont partis dans un match d'attaque avec les Américains, parce qu'ils sont capables de le faire. Ils ont les joueurs pour nous. on ne peut pas partir sur un match d'attaque. Il faut s'inspirer de ce qu'ont fait les Serbes hier en étant un peu meilleurs défensivement. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, Jean-Louis, je vais te le dire très sincèrement, c'est que le problème, c'est que les Serbes ont tiré la sonnette d'alarme chez les Américains hier. Si ça avait été une promenade de santé pour les Ricains hier, peut-être que mon pourcentage de confiance aurait augmenté. Là, ils ont vu passer l'élimination devant leurs yeux, les Ricains. Quand je les vois célébrer à la fin du match, quand je les vois sauter, quand je vois les Brand James serrer le poing à Joel Embiid, c'est qu'ils ont vu. Ils ont vu le spectre de l'élimination et d'un match pour la troisième place. Donc je me dis que demain,
on les a
ils vont être au taquet dès le départ. Ouais. Et c'est ça qui me fait peur. J'espère qu'on va être capable de rivaliser dans l'intensité. Et puis il va falloir que tout le monde se sublime. Et on attend le dernier match de la compétition pour l'équipe de France. On attend le match de Victor Wembanyama face à des match-up qu'il a joué toute la saison. Les match-up d'avant, ils ne connaissaient pas ça, les Allemands, les joueurs d'Euroleague qui mettent des énormes coups de coude, qui le repoussent. Là, c'est des mecs qu'il a joué les yeux dans les yeux. Alors, ils n'ont peut-être pas battu collectivement, mais il a été très bon contre eux. Et j'ai envie de croire à un énorme match de Victor Wembanyama demain.
Allez, on signe. Ah, on signe dès demain.
Je signe. Si on a une grosse défense et Wemby qui marque, ça me va. Hein.
Voilà, et puis ne pas mettre de côté l'option Rudy Gobert aussi face à ces Américains-là.
Ouais, ça déjà hier tu nous le disais, effectivement.
Ouais, je pense que Rudy va de nouveau avoir une carte à jouer.
Demain, 21h30, hein, le match, bien sûr en intégralité. Donc ce France-USA, France-États-Unis, la finale du tournoi de basket masculin. Merci Stephen.
Merci, et je voudrais, j'en profite 30 secondes. Demain, je vais commenter la finale avec Pierre Dorian.
Oui.
Et remercier Arnaud Valadon, avec qui j'ai passé 14 jours exceptionnels sur le basket. Malheureusement, il ne peut pas être là demain. Donc Arnaud Valadon, très très bon collègue de travail sur le basket. Voilà, merci Arnaud.
T'as raison, il était excellent pendant toute la compète, soit les garçons et les filles, nous a régalé à l'antenne.
Ouais, c'est sympa.
Et voilà, il peut pas être là pour la finale, mais Pierrot sera là. Bon. L'équipe de Basket Time sera là.
Nous, merci Steve. On a un banc de qualité aussi.
Merci à vous.
On a un banc de qualité, ouais. Ouais, ouais.
Bien sûr.
Mais toi, tu peux pas te reposer, hein, vu le nombre d'heures que tu fais par jour. On a personne pour te remplacer quand même. Hein. Mais on a un banc de qualité quand même. Dans une seconde, l'athlète. Le rendez-vous quotidien, David Douillet, Renaud Longuèvre.
Le prochain épisode.
Le prochain épisode dans
qui était déjà écrit hier.
Et pas de médaille côté français. Enfin, des médailles en chocolat. Pas sûr que ça compte. Allez, à tout de suite.
RMC, l'After JO.
David Douillet, Jean-Louis Tour.
23h42, David Douillet, Yannick Bazin avec nous ce soir jusqu'à 1h du matin. Avant d'avoir les frères Lebrun avec nous tout à l'heure et Simon Gauzy, les médaillés de bronze par équipe en tennis de table. L'athlétisme, on fait notre bilan quotidien. Alors là, toute l'équipe est là. Hein. Aurélien Tiercin et Renaud Longuèvre sont là. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir les amis.
Bonsoir.
Ah, bonsoir messieurs.
Bonsoir Renaud, comment ça va?
Ça va, mon petit David, j'espère que t'as faim, parce que t'as gagné ton poids en aligo quand même.
Oui, c'est ça.
Ah bah attends, il y a demain encore quand même, non? Ça tient sur tous les deux.
Si, ça tient demain.
Oui, mais c'était 4x100 féminin.
Ah, c'était sur le 4x100 féminin, le pari.
C'était 4x100 féminin, le pari.
Ouais, bon, ouais. Et si tu veux, je te le prolonge jusqu'à demain, tiens. Voilà, grand seigneur.
Ah, t'es gentil. Oh, monseigneur, grand seigneur.
Il est bon, monseigneur.
Alors, on précise, comme d'habitude.
Et franchement, très franchement, là, je suis vraiment très honnête avec toi. J'aurais été immensément heureux de te payer ce resto parce qu'on devrait avoir cette
paix. Je sais.
Je te le dis.
Et on précise bien que ce jeu-là, c'est pour chambrer Renaud entre vous. C'est pas de se réjouir de la déconvenue des athlètes des quatrièmes places.
Non,
moi, j'ai couru, j'ai fait des 400, j'ai lancé le poids, etc. etc. Je connais toute la difficulté de l'athlète. Je peux vous dire que c'est un sport de dingue. Ce sont des sports de fous qui demandent des entraînements de barjo, et que celles et ceux qui se sont présentés aux Jeux Olympiques, même s'ils ne sont pas médaillés, il a fallu se qualifier, et rien que ça, c'est déjà un petit exploit. Voilà.
Bon, on commence par ce 400 féminin, Aurélien.
Oui, bah, quatrième, après une course un peu en deçà de ce qu'elles avaient montré en demi, mais comme Renaud l'a très bien dit juste après la course, le 4x100 féminin, il a quasiment pas existé de la dernière décennie, et il y a eu quelque chose qui s'est impulsé avec notamment Jemima Joseph et Hélène Parizeau en leader de cette équipe. Elles sont vice-championnes d'Europe, elles arrivent quatrième au jeu. Alors à un moment donné, on y a même cru avec des possibles disqualifications des Allemandes et des Britanniques devant. D'ailleurs, sans surprise, les Américaines, les Britanniques, puis les Allemandes dans l'ordre. Les Françaises devaient se battre avec les Allemandes. Bon, ben voilà, c'est pas passé. Finalement, aucune disqualification ni pour les Britanniques ni pour les Allemandes. Donc il va falloir se contenter, entre guillemets, de cette quatrième place. Mais ce qui nous fait évoluer à la placing table, évidemment, on recolle à la Norvège. On est 14e. Il faut quand même retenir ça ce soir.
Yonu aussi, il craque complètement.
14e, Renaud. Bah, je t'entends pas là, tu parles pas, tu prends pas la parole, c'est bizarre.
Ben non, mais j'écoute.
Ben non, mais là, faut que tu parles. Non, non.
Je tiens le crachoir toute la journée. Hein.
Ouais, bon, moi, je me doute. Quand t'as pas beaucoup de grains à moudre, ça va être difficile.
Non, mais, non, mais sincèrement, c'est bon. L'analyse sur le 4x100 féminin, c'est vrai que moi j'y croyais très, très fort. Ouais. Et ce que j'espérais pour l'équipe de France, bah, c'est l'équipe d'Allemagne qui l'a réalisé.
Ah, voilà.
C'est-à-dire que nous, on avait le troisième temps avec 42. Je dis n'importe quoi. 4x100 féminin. Je suis perdu dans les chronos. Aide-moi, Aurélien, la fatigue.
Ah, pardon, excuse-moi. C'est un truc 40, c'est 42, 74.
Oui, 42, c'est bien 42. Elles ont fait 42-12 en demi-finale. Les Allemandes étaient à 42-15. Et en fait, ce que les Allemandes ont réussi à faire, c'est qu'elles sont passées sous les 42 secondes. Elles ont amélioré leur chrono des demi-finales. Et nous, on a régressé de 15 centièmes. Donc, à l'arrivée, il y a 3 dixièmes d'écart. Comme je l'expliquais à l'antenne, le 4x100, c'est des réglages techniques très, très précis. C'est aussi des prises de risque où tu peux augmenter les marques et ça peut te donner beaucoup plus de vitesse, mais tu prends plus de risques de passer hors zone. On a vu des passages qui était assuré chez les Françaises, alors que les Allemandes ont vraiment poussé, cherché des transmissions, si tu veux, en fin de zone, pour que la receveuse reçoive le bâton avec la plus grande vitesse possible. Et donc, ça s'est joué là-dessus, sur cette sur cette petite prise de risque, parce que sur les niveaux individuels et les chronos, parce que tu sais, on reçoit après les temps par 100 mètres. Les filles ont été à leur niveau, hein, au niveau de la prestation de course individuelle, mais ça s'est joué sur les transmissions.
Ouais.
Je peux vous donner un conseil, les gars?
Oui.
Diminuer les doses de l'exomil, parce que ça commence à être compliqué là.
Non, mais ça va aller. En plus, on va bien finir, je le sens. Moi, je suis avec vous, les gars. L'autre déception, c'est le 400 et donc Clément Ducos, donc quatrième aussi, hein, Aurélien.
Oui. Alors là, on va dire que c'est le vainqueur des humains. Voilà, on va essayer de se rassurer comme ça parce que on avait l'ouverture Alisson dos Santos, le Brésilien qui fait partie des trois intouchables avec Karsten Warhol, Mirai Benjamin, et on s'est dit s'il y en a un des trois qui craque, il y a moyen d'aller faire quelque chose. Bah, Clément Ducos, il a tout donné et il s'arrête. Il a remporté entre guillemets la course des autres. Il a réussi à devancer Kyron McMaster, qui est quand même le vice-champion du monde en titre, et il l'a devancé dans la dernière ligne droite. Parce que Alisson dos Santos, même s'il est un petit peu blessé, même s'il va un petit peu moins bien, on ne sait pas exactement ce qu'il a, et bien il a réussi à assurer sa médaille de bronze. Warholm en argent et Rai Benjamin d'ailleurs, qui était toujours le deuxième vice-champion olympique, deux fois vice-champion du monde, et bien cette fois c'est l'Américain qui monte sur la plus haute marche du podium, et c'est forcément un peu décevant, mais voilà, première sélection en grand championnat, il aura couru en 47-69 en série, c'est son chrono le plus rapide. Et puis voilà, on ne peut pas lui tomber dessus. Clément Ducos, c'est une belle quatrième place aussi.
Les copains, parce qu'on est déjà dans le passé, parce que les courses, il n'en reste plus qu'une demain. Est-ce qu'on a de l'avenir, là? Est-ce qu'on a des belles... Je crois que je vous ai déjà posé la question, mais j'ai envie d'espérer pour les prochains Jeux. Est-ce qu'on a des pousses qui peuvent bel et bien germer dans cet athlétisme français?
Après je laisserai peut-être Renaud développer, mais forcément quand on voit Agathe Guillemot finaliste sur le 1500, Alice Finot, alors qu'elle a déjà 33 ans, mais on l'a dit, elle est relativement jeune dans l'athlé, quatrième du 3000 steeple, record d'Europe. Sacha Zoya, on va pas l'enterrer totalement non plus. Thibaut Collet, voilà, c'est des jeunes qui doivent commencer à faire des podiums déjà européens, et après on verra. Mais voilà, quand on voit Agathe Guillemot, même Gabriel Tual, on l'attend beaucoup demain. Sirena Sambamaïla, c'est la génération Paris 2024, mais on en a déjà parlé. La Fédé commençait à sortir le parapluie les années précédentes en disant c'est peut-être une génération qui sera à maturité pour Los Angeles 2028.
D'accord.
Bon, sans aller à Los Angeles, demain donc, Gabriel Tual, finale du 800 mètres. Vous l'avez trouvé comment sur sa demi ce matin, Renaud?
Très bien, il a parfaitement contrôlé l'effort en fait qu'il fallait fournir, puisque c'était les deux premiers qui passaient en finale. Il était avec le champion du monde canadien Marco Harop, là, ce grand gabarit avec des épaules de déménageur. Et quand Harop a accéléré à un tour de la fin, il l'a suivi, mais sans vouloir non plus chercher à faire la bagarre avec Harop. Il a assuré la deuxième place en contrôle, et puis sa réaction au micro de Pierre-Ambroise Boss nous a bien plu. Il a, je pense, maintenant l'expérience de sa finale olympique d'il y a 4 ans, où il avait fini 6e. Entre-temps, il a été 5e des championnats du monde, il a fait champion d'Europe. Il commençait à avoir une belle expérience, Gabi. Donc, moi, le concernant, je sais que lui, il va arriver sur sa finale. Sans accroc, il aura tout fait comme il fallait, tout parfait. L'inconnu, c'est l'adversité. Ça, tu n'as pas de contrôle sur l'adversité. Et je vous avoue que j'ai été extrêmement impressionné par l'Algérien, c'est Djati, qui s'est promené en 1,45 sur la première demi-finale. J'ai été aussi, et on a appris à se méfier des Américains. Donc il y a un Américain qui est passé. Les résultats qu'ils font en demi-fond peuvent nous faire très peur. Et puis ce Canadien là aussi, qui est champion du monde, c'est une bête de championnat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le 800 mètres en meeting à Monaco ou à Paris avec des lièvres, ou en championnat avec trois courses comme ça, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est pour ça que Gabi va jouer sa carte à fond. Mais j'ai envie de dire, les 8 de la finale, ils ont tous une chance de gagner.
Ah ouais.
Ah ben oui.
Ah oui, donc c'est hyper ouvert. On peut très, écouter très d'ailleurs bien l'interview à laquelle tu fais référence avec Pierre-Ambroise Boss, donc de Gabriel Tual.
Et la tactique elle marche, donc je vais pas la changer maintenant.
C'est vrai.
Et non, en tout cas tactiquement c'est super bien géré. Après voilà, encore une fois, c'était pas trop facile. Ça ralentit, ça accélère, ça ralentit, ça accélère. Donc on fait un peu des à-coups dans tous les sens, et voilà, je suis ultra concentré et lucide sur ma course et où je dois être. Et je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui fait la diff, parce qu'on est tous au niveau physique. Et à la fin, je mets des petits coups à gauche, je vois que ça craque, donc je cherche pas à...
Tu contrôles jusqu'au bout, hein.
Je cherche pas à accélérer comme un gros porc et finir à l'arrache, donc...
Gabriel Tual, donc sa finale c'est demain. Pour Samba Mayela, c'est demain aussi? Ou j'ai
oui,
pas les...
C'est... Non, c'est 20 minutes après. 20 c'est à 19h15 okay. Tual et 19h35 Samba Mayela. On n'oublie pas Agathe Guimau à 20h15, même s'il y a moins de chances de médaille. Et il y a les deux relais 4x400 demain. Donc encore une fois, on peut te vendre une moisson de l'espace. Bien si sûr. On en fait une, si on en fait une, déjà on la prend, on la lâche pas et on va kiffer jusqu'à Los Angeles 2028 là-dessus.
Ouais. Super. Bien sûr. Bah, tu m'étonnes.
Alors juste pour finir côté français, donc Alessia Szarbo, là, vous avez eu des nouvelles?
Oui, elle va bien, c'est un malaise.
Grosse défaillance sur le 10 000,
ouais, grosse défaillance, elle s'est étalée de son long sur la ligne droite du 100 mètres. Le staff médical est intervenu et donc la Fédé nous a donné des nouvelles, elle va bien. Mais ça rejoint le débat qu'on a eu toute la semaine aussi avec Renaud. 90 athlètes, là on prend Alessia Szarbo qui a des chronos d'engagement. Alors bon voilà, c'est 2 minutes de plus que les meilleurs mondiales, 2 ou 3 minutes de plus. Mais là, elle n'a pas tenu le rythme, elle a totalement explosé en vol.
Ouais. Bon, au moins les nouvelles sont rassurantes. Oui. Dans les événements de demain, donc on a parlé des finales sur la piste, il y a aussi le marathon demain matin. Et d'ailleurs, on a appris le forfait côté français de Morad Hamdouni, blessé, qui sera remplacé par Hassan Chahdi. Voilà côté français.
Ouais, c'est un peu bizarre. C'était attendu. Alors officiellement, c'est une blessure au bas du mollet de Morad Hamdouni ce matin. Dans un entraînement, alors on peut se demander pourquoi on se blesse la veille d'un marathon sur une séance qui normalement ne devrait pas être trop violente. Hassan Chahdi, qui était remplaçant, avait demandé à la Fédé d'être réintégré parce qu'il y avait des problèmes de chrono, d'athlètes qui étaient un peu mieux classés, mais finalement ça a été compliqué. Et il était à Montélimar ce midi encore, Hassan Chahdi, et il est monté à Paris pour courir demain. Donc tout ça est un peu bizarre. D'ailleurs, sur les fiches d'engagement, pardon, Morad Hamdouni est toujours indiqué pour demain matin. Donc il n'y a pas marqué DNS. C'est assez étonnant, mais bon, Hassan Chahdi courra le marathon.
D'accord. Enfin,
encore une fois,
c'est avec Félix Bourg et Nicolas Navarro côté exactement français, puisque Mehdi Frère lui a été suspendu pour les histoires de No Show. Il me semble, je crois que c'est ça l'histoire, hein, ou un combat.
Ouais, c'est ça. 3 No Show et suspendu.
Et là, pareil, pas trop d'espoir
sur le marathon.
Bah, Nico, Na, Nico, Na, Nico Navarro avait fait 12e place à Tokyo. Donc, a priori, il est plus fort qu'à Tokyo. Je pense que Nico Navarro va essayer de viser un top 8 demain. Il faut savoir que le parcours du marathon est complètement atypique. Vous en avez sûrement entendu parler, ça part de l'hôtel de ville, ça part au château de Versailles. Donc, pour ceux qui connaissent, à partir de Pont-de-Sèvres, ça ne fait que monter. Il y a 5 km de faux plat montant assez important. Après, on va vers Chaville et vers la fameuse côte des Gardes, qui est un mur à 13% pendant 900 mètres. Et puis après, il y a une énorme descente vers ici et Moulineau. Et puis, on revient par la Tour Eiffel et on arrive aux Invalides. Donc, si tu veux, c'est un parcours de marathon qui est que c'est l'inconnu pour tout le monde, y compris pour Bekele, y compris pour Kipchoge. C'est les montagnes russes quand on passe le pont de Sèvres. Et ça, on n'a pas l'habitude. Il n'y a aucun major. Il y a New York, Londres, Paris. Aucun marathon ne ressemble à ça. Berlin, ni rien. Et même les marathons de championnat sont plutôt plats. Donc là, ça va être vraiment la loterie demain. Et bon, bah, pour les Français, oui, Navarro. Navarro, c'est solide. Après, les infos que j'ai eues, il s'est préparé à Font-Romeu. A priori, il est plutôt en forme. Mais il y a un niveau stratosphérique devant.
Demain matin, donc, le marathon sera sur RMC.
Il faut juste souligner qu'il y a Jean-Louis qui a blémi. Il est blanc.
Mais non, mais je le connais, moi, le parcours.
Il va le faire demain soir.
Oui, c'est demain soir, le
et
marathon
là,
pour
j'ai
tous.
J'ai vu que tu as changé de couleur les amateurs. Les propos de chrono.
Non, mais on s'en reparlera dimanche. Ah bon. Voilà, on verra comment ça s'est passé, si je suis encore vivant, tout ça.
Lui met pas la pression, David. Lui met pas la pression.
Non, mais c'est toi qui lui as expliqué le parcours.
Non, mais je le connais par cœur. Moi, j'ai rien dit. Je le connais par cœur, le parcours.
Il connaît. Je savais. T'inquiète pas, c'est un pro. Il a reconnu chaque mètre du marathon.
Dans quoi je me suis embarqué. Bon, juste dans la soirée,
bon Samu,
Aurélien, ouais, heureusement qu'on est en France. Aurélien, en dehors des Français, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Moi, j'ai en tête le relais 4x100 américain, mais il y a peut-être d'autres choses marquantes.
Ouais, bah t'as raison. Une mauvaise transmission disqualifiée relais 4x100, ça c'était une surprise. Il y a aussi le doublé 5000, 10000, puisque sur 10000 mètres, c'est Béatrice Chebet, la Kenyane, qui s'impose devant Nadia Batocletti et Sifan Hassan, voire l'Italienne vice-championne olympique du 10000 mètres face à une armée de Kenyanes et d'Éthiopiennes. C'est quand même une grosse performance. Et puis on a vu un concours du triple saut avec trois Cubains naturalisés sur le podium, un Espagnol en tête, Pedro Pichardo le Portugais désormais deuxième, et puis Andy Diaz l'Italien à la troisième position.
Bon, très bien. Et bien, comme ça on est complet.
Et Jean-Louis, oui, à propos du relais américain, on a assisté à une scène lunaire. Il y avait Christophe Cessieux qui était venu voir les épreuves d'athlée ce soir. Et juste en dessous de nous, tu avais la zone d'interview et tu as Carl Lewis qui était fou furieux après le passage hors zone des Américains et qui fulminait parce qu'il est accrédité. Je pense qu'il a un rôle dans le staff de l'équipe d'athlétisme américaine. Et il s'adressait aux commentateurs de NBC, mais à 2-3 mètres, en vociférant, en disant c'est des abrutis, un truc comme ça. Ah oui. Et le commentateur NBC lui disait: mais viens parler au micro, viens. Et Lewis a dit: non, vaut mieux pas que j'aille parler. Il était fou furieux. Ah ouais. J'ai montré ça à Christophe, on était au-dessus, c'était spectaculaire.
Ah ouais. J'ai cru que Carl Lewis avait reconnu Christophe Cessieux.
C'est
possible aussi, hein, on ne sait pas. Hein. Bon, Renaud, merci. Aurélien aussi. Bonne soirée. Bonne courte nuit, Renaud. À demain.
4h15, direction le ravitaillement, 20e kilomètre.
Puisque tu accompagnes un des marathoniens, donc demain matin.
Bon courage
et à demain pour les médailles.
On croise les doigts.
Dans une seconde, les médailles sont là. Les frères Lebrun, Simon Gauzy, l'équipe de France de tennis de table avec nous. On parlera également du foot battu en finale par l'Espagne. Et on présentera la finale pour l'équipe de France de volley avant notre débat breaking. Est-ce que ce sport a sa place au jeu? A tout de suite dans l'After JO.
RMC, l'After JO.
David Douillet, Jean-Louis Tour.
Nouvelle balle de match pour
Félix
Lebrun.
Allez, la
cinquième. Le service qui est de Félix. Et oui, Félix. Bravo, Félix. 13-11 pour l'équipe de France. Et donc, médaille de bronze pour le ping français. C'est la deuxième médaille de bronze. Merci à Félix Lebrun, 17 ans seulement. Et c'est lui qui porte cette équipe de France. Et on n'oublie pas Simon Gauzy, Alexis Lebrun, le grand frère. Mais cette équipe de France est juste géniale. Et là, les larmes aux yeux de tout le monde parce qu'ils nous ont fait vivre des émotions. émotions, ils nous ont fait peur, ils nous ont fait trembler. Mais c'est Félix, toujours le même, qui vient nous remporter ces points cruciaux, ces sets cruciaux, ces matchs cruciaux.
RMC Intégrale Paris 2024.
On va donc parler de sport de raquettes puisque Léna Marjac nous a rejoint dans l'After JO. Salut Léna.
Salut Jean-Louis.
Le ping-pong donc avec l'équipe de France qui est allée arracher cette médaille de bronze. Et ils sont avec nous les héros français. Les frères Lebrun, Félix et Alexis, Simon Gauzy et Jules Roland également qui est là. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Et félicitations, vous avez fait vivre de belles émotions ce matin. On commence par peut-être donc ce match pour la troisième place, débuté parfaitement par le double, hein, Léna.
Ouais, Simon et Alexis qui ont très bien lancé l'équipe de France ce matin pour cette place 3-4. Hein. Et puis derrière, on a eu surtout Félix qui nous a sauvé 3 balles de match. On a cru à un moment que la balance allait tourner côté japonais, mais Félix a, Jean-Louis, on l'a vu, un mental de dingue. Et à seulement 17 ans, il a permis à la France de mener 2-0.
On va en parler, mais Simon, d'abord, donc ce double, c'est l'entame idéale de prendre le double déjà. Ça aide à prendre un ascendant sur les adversaires, sur les Japonais.
Oui, déjà ça. Et puis en plus, on met Félix dans de bonnes conditions. C'est quand même plus simple pour lui de rentrer à 1-0 pour nous que le contraire. Donc. On avait à cœur de l'aider, de nous aider, et on a fait peut-être notre meilleur double qu'on ait fait tous les deux ensemble. Donc, on ne pouvait pas rêver de meilleure entame.
Alexis, vous aviez oublié la défaite en demi contre les Chinois. Il fallait se remobiliser très vite.
Ouais, et puis je pense que le fait qu'on ait perdu contre la Chine avec pas énormément d'occasions, ça nous a aussi aidé à nous remobiliser très rapidement. On le savait que ça allait être compliqué et on savait qu'on allait avoir sûrement une place 3-4 à jouer. Et on y était préparé et c'est vrai qu'on a super bien abordé ce match. D'être allé chercher cette médaille de bronze, elle a un goût d'or, quoi.
Donc on tourne à 1-0 après donc le double. Et derrière, Félix, c'est le gros match en plus, hein, contre le meilleur japonais en face aussi. Hein.
Ouais, carrément, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Il est arrivé sur le circuit il y a déjà un moment, pourtant il est toujours très jeune. C'était un match de fou. Je pense que pendant 4-7, je dominais un petit peu, mais il y avait 2-7 partout. Et finalement, le dernier set, là où c'est le plus dur pour moi, là où il domine le plus, c'est celui que je vais chercher. Donc, trop content de pouvoir amener l'équipe à 2-0, parce que, comme l'a dit Simon, je préfère être à 2-0 qu'être à 1.
Il y a la place au doute en ping-pong, parce que j'ai l'impression que les points s'enchaînent tellement vite, ou peut-être c'est toi, Félix, qui a cette capacité à passer vraiment à la suite. Mais quand il y a 3 balles de match, est-ce qu'à un moment donné tu te dis bon, ça m'échappe, ou est-ce qu'au contraire tu penses chaque point l'un après l'autre et tu fais cette démarche mentale?
Oui, j'ai vu le match m'échapper forcément, puis toute la belle il est devant, donc non, on y réfléchit forcément, mais je me suis dit que j'ai pas le droit de lâcher. J'avais, je sais pas, peut-être 5-10% de chance de gagner, mais j'ai essayé de les saisir et aujourd'hui ça a tourné de mon côté.
Et en gagnant donc le simple décisif à la fin, vous gagnez donc cette médaille de bronze. Les Chinois, ils sont vraiment intouchables. Je veux dire, on l'a vu hein, dans votre match, mais j'imagine pour la suite, est-ce qu'on peut être capable de raccourcir un peu la distance avec eux, Simon? Qu'est-ce que t'en penses?
Oui, je pense que déjà ça s'est un peu rapproché, pas seulement pour nous, pour d'autres nations également. Mais la difficulté de l'épreuve par équipe, c'est qu'il faut les battre 3 fois en 2h30, 3h. Et déjà, le faire une fois, déjà, il y a un Suédois qui a réussi à battre un Chinois dans l'épreuve individuelle. Mais au final, c'est quand même un Chinois qui gagne. Ouais. Donc, il faut le faire 3 fois en 3 heures, ce qu'on n'arrive pas forcément à faire 3 fois en 6 mois. Donc, voilà, c'est la difficulté de la tâche. Mais bon, je pense quand même que ça se rapproche.
Léna, je sais pas si t'as une question en plus, toi qui les as vus jouer tout le temps. Il y a aussi un truc sur lequel on peut revenir, c'est le rapport au public. Il s'est vraiment passé quelque chose avec cette équipe de France de ping-pong pendant ces Jeux à Paris.
Ouais, il y avait clairement une attente aussi autour du ping français, hein, parce qu'on parlait beaucoup d'Alexis et Félix déjà avant les Jeux Olympiques. Mais je pense que vous nous en avez déjà beaucoup parlé, c'est qu'il y avait une atmosphère quand même assez incroyable dans cette salle. Je sais pas comment vous avez vécu ça les premières fois, vous êtes tous rentrés, même Simon là cette semaine, quand vous êtes rentrés dans la salle, cette atmosphère là fallait dompter la pression aussi du public. C'était dur, c'était, comment vous avez géré ça?
Alexis, tu peux nous dire peut-être on t'a vu te servir souvent du public, hein.
Ouais, moi en tout cas j'ai eu la chance de jouer 3 tableaux, donc ça m'a permis de prendre pas mal d'expérience par rapport à tout ça depuis le début. Et c'est vrai que la première fois j'ai pris une vraie claque, j'étais très ému avant de jouer mon match, et j'ai fait un premier set pas dingue. parce que bah j'étais pas prêt à ça. Et puis après j'ai appris de ce match-là, et à partir de là j'ai réussi à bien me servir du public, à vraiment kiffer le moment. Et et c'est vrai que peu importe le résultat de mes matchs, que j'ai gagné ou perdu, j'ai toujours pris énormément de plaisir à jouer dans cette arène-là. Donc ouais, je pense que c'est ça le principal pour pouvoir bien jouer.
Et juste Félix, justement sur les trois balles de match que tu as contre toi, est-ce que le public à ce moment-là t'aide vraiment? Est-ce que c'est un atout vraiment dans des moments cruciaux comme ça?
Ouais, en tout cas j'essaye de l'utiliser. Après je pense que c'est aussi pas simple pour lui. Il a forcément un peu de pression quand je reviens par exemple à 19 et d'entendre tout le bruit qu'il y avait dans la salle, bah ça le tend encore plus je pense. Donc c'est une balance entre les deux. Moi ça m'aide un petit peu, et je pense que pour mon adversaire c'est pas facile.
Vous avez conscience que vous êtes devenu les chouchous du public français sur ces jeux, Alexis?
Bah j'en sais rien si on est les chouchous, mais c'est sûr que là on a quand même fait de grandes choses dans ces Jeux Olympiques, et c'est vrai que le public s'est attaché à nous, à cette équipe-là, et ça nous a beaucoup aidés. Et puis on n'a pas encore pu célébrer au Club France, mais on va pas tarder à y aller, et on va se rendre compte un petit peu de tout cet engouement d'ici quelques heures.
Vous allez vous en rendre compte, effectivement. Félix, il y a donc deux médailles autour de ton cou, puisqu'il y a aussi eu l'individuel. Un peu avec le même schéma, tu perds contre le Chinois en demi-finale, et après tu te remobilises pour aller gagner contre le Brésilien qui t'avait battu, Alexis. Il me semble, c'est lui, hein, c'est le même Brésilien que tu bats.
Hein,
voilà. Et donc tu gagnes aussi cette médaille en individuel. Les deux ont aussi bon goût, ou il y en a une que tu préfères à l'autre?
Non, les deux ont très bon goût. C'était des Jeux Olympiques incroyables pour moi. C'est différent forcément. En individuel, c'est une émotion incroyable. C'était la première fois. Je ne savais pas encore qu'on allait l'avoir en par équipe. Donc c'était vraiment incroyable. Mais aussi en équipe, de le partager avec Alexis, Simon, Jules, Nat, c'était quelque chose aussi d'énorme. Donc deux émotions dont je me souviendrai longtemps.
Et j'ai une dernière question pour Simon. En quoi t'as venu à RMC à compter dans ta médaille de bronze, puisque t'es venu échanger quelques balles chez nous?
Ouais, c'est le tournoi sur la table d'after. Où on voyait absolument rien derrière. Ouais. Qui m'a bien aidé à aller chercher cette médaille.
Très bien, merci Simon Gauzy, Alexis et Félix Lebrun. On félicite également Jules Roland qui était dans l'équipe donc de tennis de table français, qui a ramené une belle médaille de bronze. Bravo, bravo les gars.
Merci
à tous.
Merci beaucoup.
En les entendant, David, je me remémore ce que tu dis régulièrement sur les sportifs qui gagnent pas forcément l'or à la fin, mais qui se dépassent, qui créent quelque chose avec le public. Là, les frères Lebrun, on est pleinement là-dedans. Hein. Et Simon Gauzy aussi.
C'est complètement ça. Ils ont été, ils ont rencontré plus fort qu'eux, les Chinois en l'occurrence. Et je trouve que ils ont été au bout d'eux-mêmes. Ils ont été au maximum de ce qu'ils pouvaient faire. D'ailleurs, leur troisième place le prouve sur le dernier match, où les Japonais remontent. Il y a un coup de mou de l'ami Lebrun et il se ressaisit et il finit par claquer le troisième set victorieux. Donc ce sont des gens qui vont puiser au plus profond pour aller quand même décrocher le truc, et ça donne toute la saveur. Tu vois, une médaille de bronze, en réalité, de cette qualité-là, ça vaut quasiment une médaille d'or, même si c'est pas le résultat. Mais voilà, ça suffit, quoi. C'est suffisamment puissant, fort. Ils vont suffisamment puiser loin pour que, c'est émotionnellement parlant, c'est du même niveau, et sportivement parlant, pratiquement. Voilà.
Et le rapport au public? Le fait d'exulter à chaque point, d'aller chercher l'énergie avec les spectateurs, ça c'est génial. C'est pour ça aussi, hein, je leur disais, qu'ils deviennent les chouchous du sport français.
Bien sûr, parce que faut pas croire, hein, quand t'es en repêchage ou en médaille de bronze, etc., il faut remonter la pente. Tu vois, souvent t'as perdu une demi-finale, donc tu prends un sacré coup de bambou derrière les étiquettes. Donc te remobiliser, repartir pour faire une
un coup de bambou aux étiquettes.
Ouais,
je l'avais pas celle-là.
Les étiquettes, c'est ce que t'as entre les
moi je te fais confiance.
Ouais, mais c'est ça, c'est l'argot, c'est comme ça, mais c'est joli l'argot.
Moi j'ai bien compris l'image.
Ça fait partie du patrimoine français. Il y a des dictionnaires d'argot. Bref, en tout cas, je sais plus ce que je voulais dire, mais je vais le dire. Merci Jean-Louis.
C'est moi qui t'ai sorti.
C'est super, c'est sympa. Non mais voilà, c'est-à-dire que quand tu reviens d'une défaite comme ça, pour te remobiliser, en fait tu démarres une nouvelle compète. Faut oublier le passé, et pourtant il est très récent. Il faut le gommer, il faut en faire abstraction. J'en parlais avec Romain Dico en l'interviewant, c'est la même chose. Elle perd sa demi, mais il faut qu'elle sorte de sa demi. Elle est médaille d'argent. À Tokyo.
Oui, il me semble que c'est ça. Argent à Tokyo et bronze là.
Oui, c'est ça, je crois. Je confonds avec Madeleine Malanga. C'est pas grave, il est tard. Bronze à Tokyo, c'est ça. Donc, elle était là pour l'or, d'ailleurs, comme Clarisse. Ça marche pas. Tu vois, tu pourrais t'effondrer, tu pourrais dire voilà, j'ai plus envie. Le bronze, j'ai déjà eu. Non, tu l'as pas eu. Tu l'as pas encore, celui-là. Et c'est le présent qui compte, c'est pas le passé. Ouais. Le passé, c'est fait. Tu y reviens jamais.
Et puis ce qui est bien avec les frères Lebrun, c'est que comme ils ont 17 et 20 ans, on est sûr que dans 4 ans ils seront là.
C'est ça.
Et ils annoncent que l'écart se réduit avec les Chinois, hein, donc pourquoi pas y croire.
Ouais, puis je pense qu'à chaque fois que tu viens leur mordre le mollet, tu mords un peu plus loin, tu mords la cuisse, et puis un jour tu leur mords dans le dos, et puis un jour tu les croques, quoi.
Voilà, ouais, sans parler du sportif, moi je trouve l'image qu'ils ont montrée au public français, j'ai trouvé ça incroyable, la simplicité qu'ils ont dégagée à chaque fois, à travers chaque match, chaque point. Toujours assez simple, assez naturel, et je trouve que ça remet une image sur le ping-pong, on n'en parle pas souvent. Alors certes, t'en parlais tout à l'heure, tu disais, c'est une fois tous les 4 ans, mais j'espère que eux, on va en parler un peu plus parce qu'ils méritent qu'on en parle.
C'est des jeunes, tu vois, qui vont au bout des choses, tu vois. Et puis c'est des gamins, tu vois. Je fais penser au judo comme le petit Gaba, le Maxime, etc. C'est des gamins, tu vois. Ils font partie de ta famille, quoi.
Tu vois. Sens que c'est brut.
Ça pourrait être des gamins qui font partie de ta famille, tu vois. Ils sont là, quoi, tu vois. Donc et ils font briller les choses, et ils sont attendus sans être attendus. C'est dur, il y a une confrontation, et ils assurent, et ils tiennent leur rang, et ils nous font plaisir. Et puis c'est les Jeux à Paris, et ça enflamme
et
tout.
Quel plaisir ils ont donné aux gens.
C'est fabuleux.
C'est clair, ils nous ont régalé. Alors c'est tous les 4 ans qu'on les voit au jeu sur RMC et notamment sur la chaîne Twitch RMC Sport. On suit aussi les grands Open de les championnats du monde aussi, les grandes manches de Grand Chelem de tennis de table. Donc les frères Lebrun, on les suit aussi toute l'année sur RMC. Vous pourrez suivre encore leur exploit.
Je pense qu'il y aura plus de monde.
Ouais, sûrement.
Ah, c'est sûrement.
Il s'est passé quelque chose avec eux.
Maintenant on est attaché à eux. Voilà.
Exactement.
On est attaché à eux, on est attaché à tous les champions qui nous ont fait plaisir, qui nous ont fait rêver pendant ces Jeux Olympiques. Et je suis heureux de cette progression de la culture sportive au global et de l'envie d'aller revoir ces champions de ce et de les voir à nouveau.
J'ai même envie de voir les prochains championnats de France avec la finale entre les frères Lebrun, la revanche de l'autre fois quand c'est Alexis qui avait battu Félix, qui avait célébré sur la table. Voilà, ça fait partie des histoires qu'on aime bien dans le sport français. Dans une seconde, le foot. La défaite en finale face à l'Espagne. On est passé par toutes les émotions dans cette finale. On va voir ce qui restera plus tard de ce tournoi olympique de foot. Jeannot Rességuier, Laure Lepailleur avec nous dans quelques secondes. À tout de suite.
RMC, l'After JO.
David Douillet, Jean-Louis Tour.
Possible pénalty, vérification de l'arbitre. Le Parc des Princes, faut mettre la pression.
Bon, rien.
Pénalty.
Oui.
Pénalty pour l'équipe de France.
Jean-Philippe Mateta face à Arnaud Tenas. Le coup de sifflet de l'arbitre à venir. Tranquille mon garçon, on assure le coup. La course d'élan, la frappe. Ouais. Le tente bien. Il est parfait. Il est dedans. Et la France est vivante pour la médaille d'or.
On en a eu des retournements de situation. Ça en fait un de plus.
Oh, attention, il est tout seul. La bonne sortie. Le ballon piqué. Et le but des Espagnols. Le but des Espagnols avec Camello dans la surface de réparation. Le ballon piqué dans le dos de la défense. Le long dégagement. Camello, ça frappe par-dessus. C'est fini. Le but des Espagnols. C'est terminé. 5-3 pour l'Espagne dans les toutes dernières secondes. L'Espagne est médaille d'or. La France médaille d'argent. L'équipe de France sort quand même la tête haute de ce tournoi olympique et repart avec une médaille d'argent.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.
Toujours avec David Douillet, Yannick Bazin. On accueille donc ceux qui nous ont fait vivre les tournois de foot masculin et féminin. Jeannot Rességuier et Laure Lepailleur. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Défaite finalement donc 5-3 après prolongation.
On y a cru
parce qu'on a vibré au moins sur cette égalisation. On était mené 3-1 une bonne partie du match. On arrache quand même la prolongation. Voilà, évidemment Jeannot, on y a cru.
Alors après, on a pris une leçon de réalisme, faut le reconnaître aussi, au-delà de la qualité de ces joueurs espagnols qui, selon moi, étaient au-dessus des joueurs de l'équipe de France de Thierry Henry. Mais quand tu as la chance d'ouvrir le score rapidement, comme ce fut le cas dès la 11e minute, bah, tu te dis, tiens, pourquoi pas. Et puis finalement, comme tu l'as d'ailleurs précisé en direct, on était un peu en train de revivre ce qu'on a vécu à l'Euro lors de la demi-finale. C'est-à-dire que tu ouvres le score et tu n'en profites pas derrière. Et en l'espace de 10 minutes, hein, entre la 18e et la 28e minute, le doublé de Fermín López et ensuite le magnifique coup franc de Baena. À la mi-temps, tu es mené 3-1 et là tu te poses beaucoup de questions. Et puis finalement, tu réussis à revenir dans le match. C'était presque inespéré. 79e minute et puis aussi le pataquès du penalty là avec notre grand arbitre brésilien qui avait pas compris qu'effectivement on lui parlait dans l'oreillette depuis à peu près 30 secondes et qu'il est finalement allé voir l'image. Après, je pense que, je sais pas ce qu'en pense Laure, mais ils ont montré beaucoup de fatigue, manque de lucidité, et les autres en face, même si Santidenia a fait rentrer des joueurs à vocation défensive, il a fait rentrer ce diable de Camilo, que personne ne connaissait, du Rayo Vallecano, qui n'avait jamais marqué un but jusqu'à présent, et qui nous claque un doublé pour nous éliminer, ou en tout cas de la course à la
Ligue. Il y a un but, c'est un contre, on s'exposait, c'est normal. Enfin, pour moi, celui-là, il compte pas, parce qu'on a pris un risque. Ouais. Et moi, je le trouve un peu dur, pour le coup, parce que. J'ai trouvé qu'on allait la chercher cette victoire, tu vois. J'ai trouvé que il y avait de l'agressivité, on tentait des choses pour être créatif, pour, tu sais, quand t'as fait la boulette et que tu prends trois buts en si peu de temps, j'ai trouvé qu'il y avait une très belle réaction derrière, même si tout n'était pas parfait.
Les contrôles, pas au fond, hein.
Mais je sais bien, mais au moins il y a eu l'initiative, il y a eu un pressing qui a fait que au bout du bout ça a payé quand même, parce que on finit le match à égalité, quoi, tu vois.
On est resté dans la culture de ce qu'avait mis en place Thierry Henry, la réaction face à l'Égypte, la réaction face à l'Espagne. Mais moi, ce qui me gêne un peu, si tu veux, et c'est la maladie du foot français en général, pour ce qui est de l'équipe de France A, on l'a vu chez les espoirs aussi par moment dans les éliminatoires de l'Euro 2025, dans ces moins de 23 ans pour les Jeux Olympiques, on a un problème de finition. Alors on peut être maudit, on a pris la barre, etc. Quand tu vois le but qu'encaisse Arnaud Tenas, t'as l'impression que c'est le retour d'Arconada 40 ans après. Et puis finalement il fait 3, 4, 5 carrés déterminants, plus sauvé par un poteau et sauvé par une transversale. Donc c'est là où c'est un petit peu gênant, c'est que la différence elle est faite par l'Espagne qui a une culture qui s'applique des A jusqu'en bas avec les U16 et les U17. Nous on n'en est pas là, ou on n'en est plus là, et quelque part on se retrouve avec à chaque fois des regrets de ne pas avoir mis les ballons au fond, quoi.
Alors, qu'est-ce qui restera de ce tournoi olympique? Est-ce qu'il y a des joueurs, selon toi, qui se sont révélés, qu'on va garder en tête? Thierry Henry, peut-être aussi. Est-ce que son tournoi olympique va compter pour l'avenir? Qu'est-ce que tu retiens?
Moi, ce que je retiens effectivement, c'est l'aventure humaine de cette équipe, et parce qu'avec une constitution qui avait été compliquée pour Thierry Henry, je trouve un bon visage qui a été donné du sélectionneur, parce que. On le voyait souvent très sérieux, très fermé, très droit, mais on l'a vu aussi s'épanouir, sourire, partager avec son groupe. Comme j'ai tendance à dire, il a été entraînant. Il a été entraînant, il a fédéré. Et je trouve que déjà, lui, c'est pour lui une grosse victoire d'avoir amené cette équipe en finale.
Il a réussi. Alors, son pari, surtout avec le contexte.
Voilà, et on aurait espéré que l'issue soit forcément beaucoup plus positive, mais je trouve que malgré tout, le parcours il reste assez formidable, avec une équipe qui est allée crescendo dans cette compétition, qui nous a fait partager des émotions, avec notamment sur le quart de finale face à l'Argentine, l'Égypte où ils ont pu inverser la tendance. Là encore, le scénario aurait pu être magnifique, parce que tu reviens 3-3 et t'espères. Alors effectivement, c'est peut-être aussi cette envie d'aller chercher une victoire. Et je rejoins un peu David là-dessus, c'est que finalement, on s'est exposé à prendre des buts. Parce qu'on a eu cette volonté d'aller chercher cette médaille, et puis la fragilité affichée sur certains secteurs de jeu, parce que à un moment donné on a fait un peu au football total, on a essayé d'aller marquer des buts, et puis on s'est heurté forcément à à une belle équipe espagnole, parce que il y a quand même une chose aussi qui fait la différence par rapport à cette équipe, c'est que bah, techniquement c'est très bon, et puis ça a fait preuve d'efficacité, d'une efficacité redoutable, et on sait que dans les compétitions, quand on a des occasions et qu'on les marque, forcément ça a une issue positive, mais après, au-delà de ça, je trouve que voilà, il y a une vraie victoire collective de cette équipe de France, et si on devait retenir des joueurs, je pense qu'il faut quand même malgré tout retenir Michael Olise qui a quand même été un joueur important de cette équipe, le métronome, le joueur qui a créé pas mal de choses, et puis un profil atypique, Mateta, qui est un peu voilà, on suit un peu le football anglais, mais qui est presque un joueur que on a oublié, et qui dans ce tournoi finalement finit meilleur buteur de l'équipe de France. À marquer des buts décisifs. Ouais. Donc voilà, et donc les leaders qu'on attendait, et notamment les joueurs les plus anciens, on les a eus, même si on a un Alexandre Lacazette qui a été, je pense, un bon meneur d'homme pour ces jeunes joueurs. Il aurait pu être un petit peu plus décisif parce qu'il a pas scoré comme on aurait voulu, mais je pense que les choix finalement ils ont été bons, et que ça a créé un excellent collectif.
On est d'accord, le contrat il est rempli. Vous êtes d'accord avec ça quand même?
Oui.
Bon.
Oui,
bah d'ailleurs, c'est ce que disait Thierry Henry. On peut l'écouter avec Alexandre Lacazette après le match au micro de Fabrice Hawkins.
Non, aucune déception extraordinaire. Ce qui s'est passé, on s'est battu. Je ne peux pas être déçu de ce qui s'est passé. On a eu 15 minutes de flottement, vous avez pu le voir en premier temps, après on s'est battu jusqu'au bout. Donc quand une équipe se bat jusqu'au bout, il n'y a rien à dire. L'histoire, elle est extraordinaire. Je l'aurais dit, le public l'a bien fait comprendre, ça a chanté la Marseillaise. C'est mérité, le stade a été encore une fois extraordinaire ce soir. Malheureusement, on n'a pas pu rapporter l'or, mais on est quand même médaillé. L'histoire, elle est vraiment extraordinaire, vraiment.
Voilà, l'histoire est extraordinaire pour Thierry Henry. C'est la seule défaite, de toute façon, pour des footballeurs qui est moins horrible à digérer. C'est la défaite en finale d'un tournoi olympique.
Ouais,
parce que tu repars avec quelque chose quand même.
Tu repars avec quelque chose face à une grande équipe, une très grande équipe, qui était ce soir meilleure que nous, ouais. Faut quand même l'avouer. Et on en parlait tout à l'heure, enfin, c'est toi Yannick qui précisait ça, avec un débarrage qui n'est pas tout à fait les mêmes. La règle en Espagne, tu l'as dit, on en parlait entre nous.
Oui, c'est dans la loi, en fait, de libérer les joueurs. Donc en gros, la Fédé fait ce qu'elle veut.
Ce qui n'est pas le cas chez nous. Quoi, tu vois. Donc t'as pas forcément la même configuration au départ, même s'ils ont une équipe très jeune.
Mais surtout, Thierry Henry a été en attente de savoir justement s'il pouvait avoir ses joueurs. Et c'est ça. Là où ça a dû être hyper dur de construire une équipe en très peu de temps pour réussir à avoir cette belle médaille. Moi, je trouve ça beau. En tout cas, d'avoir réussi à faire ça.
Et même avec
pour moi, l'exploit, il est là. Hein. Il est là, oui. Parce que dans la difficulté qu'il a rencontrée, avec tous les refus qu'il a essuyés, il perd en cours de route Kefren Thuram, qui signe à la Juve, et qui était déjà un cadre au milieu de terrain. S'il était resté, il aurait été titulaire. Et ensuite, il a voulu à tout prix démarrer très tôt la préparation. Parce qu'il
a raison.
54 jours. Donc
il
c'est là raison. Où il a été fort. C'est là où il a été très fort. Quoi. C'est qu'il a réussi à convaincre des joueurs de stopper leurs vacances. Il a réussi à convaincre aussi la fédération de dire ben, on va partir en stage au Pays Basque, on va aller plutôt au camp de base à côté d'Aix-en-Provence, on va faire 3 matchs de préparation. Et tout ce qu'il réussit à mettre en place, finalement, dans la globalité du parcours, le seul match où ils s'en sortent bien, c'est la Guinée. Ils gagnent 1-0 et on leur refuse 2 buts avec l'assistance vidéo aux Guinéens, alors qu'il y en a un qui est tout à fait valable. Mais voilà, dans la progression de la compétition, ils prennent qu'un seul but contre l'Égypte. Bon, là, ils se retrouvent avec une équipe très forte et une équipe surtout réaliste, encore une fois. 5-3, dans l'histoire des Jeux Olympiques, je regardais avant l'émission, c'est la finale la plus prolifique de l'histoire.
Mais c'est ça, en plus, on s'est régalé. Moi, j'ai vu le match, je me suis régalé. Alors, comme on disait tout à l'heure, il y a eu 15 minutes de flottement, mais toute la deuxième mi-temps, l'équipe de France a dominé et a essayé de revenir à chaque fois au score avec l'aide du public. Et moi, j'ai trouvé ça incroyable, l'égalisation, plus en pénalty à la dernière minute. Derrière, bon, ils prennent ce but, mais ils ont tout donné. On a vu Mateta avec des crampes qui n'arrivait plus à faire un mètre parce qu'il était, archi-cuit. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Moi, personnellement, j'ai pris un vrai kiff ce soir.
Moi qui n'ai jamais fait de jeu, c'est la première fois que je faisais des Jeux Olympiques. Alors, je sais que David va me dire oui, mais t'as fait que le football, c'est pas pareil que. Non, je plaisante.
Je t'ai rien dit.
Mais, oui, mais je sais que tu l'as pensé très fort, c'est pour ça que c'est venu jusqu'à moi. Parce que tu me l'as déjà dit auparavant. Mais n'empêche que, avec le public, ce qui s'est passé avec le public à Marseille, à Nice, à Bordeaux, à Lyon, au Parc,
c'est tout simplement énorme. Et c'est là où on a reconnu, en tout cas, pour ceux qui ont l'habitude et qui m'en ont parlé, c'est là où on a reconnu l'esprit olympique, c'est-à-dire la vraie communion, l'envie de communier, ce que moi je n'ai jamais vraiment vécu avec les championnats d'Europe et avec les Coupes du Monde, même si à un moment donné tu fais déplacer des gens dans des pays comme la Russie ou comme le Qatar, où on parlait d'exploits à cette époque-là parce qu'il y avait plus de 10 000 supporters français dans les stades et même à l'Euro. Mais là, c'est quelque chose de grandiose, quoi. Tu as même des gens dans le stade qui portaient des maillots de l'équipe de France qui dataient de 40 ans en arrière, quoi. Donc, c'est là où tu te dis, je sors avec l'envie de communier avec une équipe de football,
veux dire,
avec une équipe
enfin de basket. Une ambiance sympa au foot, c'est ça?
Ouais, exactement.
C'est ce que le foot mérite tout au long de l'année, normalement, tu vois.
Oui, mais
c'est ça qu'on doit retrouver.
C'est une autre histoire.
Ben oui, je sais, mais c'est ce que la Ligue devrait se mettre comme objectif, au lieu de parler toujours de centaines et de centaines de millions pour abreuver les clubs, etc., etc. C'est à partir de là où tu commences à construire quelque chose qui vaut très cher, tu vois. Si t'as un public formidable, un public qui va être au rendez-vous, un public qui va amener sa famille, qui va amener les enfants, etc. Donc tu fidélises ton public de génération en génération, et t'as pas que quelquefois des groupes de fous furieux qui font peur à tout le monde et qui voilà. Et en plus c'est un public qui va aimer le foot, qui va le consommer, tu vois, dans tous les sens du terme. Et même économiquement ils peuvent s'y retrouver sur le long terme, tu vois, avec cette façon de voir les choses, très sincèrement. Et ça sera d'autant plus sympathique que je suis sûr que si le foot avait une meilleure image, là je sors un peu du cadre, s'il y avait une meilleure image avec des supporters aussi formidables qu'il y a eu pendant les Jeux Olympiques, je suis assez certain que les droits pourraient évoluer dans le bon sens pour la Ligue 1.
Ouais, c'est tout le modèle qu'il faut repenser.
Exactement.
En profondeur. Jeannot, merci. Merci Laure également. Merci. Bravo pour votre tournoi. Et bonnes vacances maintenant. Hein.
Oui.
Même si on attend les footballeurs demain au Club France. Hein.
Ouais, ils seront demain à midi, au Club France.
Et le foot a toute sa place au jeu. Voilà.
Merci David. Je termine avec la main sur le cœur d'entendre ça.
Là, par contre, c'est moi qui me réveille. Non, pas comme ça.
Jean-Louis, tu vas faire ton marathon demain. On te demande pas ton avis. Voilà. Si, c'est tout ce qu'on te demande.
J'étais pas prêt à cette réponse. Mais non, mais pour de vrai. Non, là, par contre, moi, je suis désolé. Dans la forme actuelle, ça n'a pas sa place. Je suis désolé.
La FIFA ne veut pas.
Je dis ça pourquoi, je vais te le dire très simplement. On est le seul sport, le foot, où lors de la finale, on n'avait pas le plus haut niveau possible de ce sport. L'opposition entre les deux, c'était pas un grand match de foot. C'est-à-dire, c'était pas un match de Ligue des Champions, c'était pas un match de Coupe du Monde, c'était pas un match d'Euro. Oui, mais donc ça me pose un problème. Au JO, c'est l'excellence.
Le problème, c'est pas le foot.
Moi, je dis, dans la forme actuelle, le foot n'a pas sa place. Pour moi, la meilleure idée, c'est le futsal. On met le futsal, les meilleurs joueurs de futsal.
C'est pas le même sport.
Bah, c'est du foot quand même.
Oui, d'accord, mais c'est pas le même.
Dans ces cas-là.
C'est le même sport, mais c'est les cousins, quoi. C'est pas la même chose.
C'est comme le rugby à 7, tu vois. C'est pas le rugby, mais c'est une autre forme de ce
c'est
sport.
Et ça lui permet de rugby. C'est pas du rugby à 15, je suis d'accord.
Oui, mais t'as quand même les meilleurs joueurs de rugby à 7, t'as quand même des matchs de haut niveau, etc.
Mais
là, le foot, moi je suis désolé, le match d'aujourd'hui, c'était super niveau émotion et tout. Mais niveau qualité de jeu, c'est pas l'excellence. Alors que dans tous les autres sports, c'est l'excellence. C'est ça que j'arrive pas à digérer, en fait.
On enlève la Ligue des Nations. Et on fait venir la vraie équipe de France pour les Jeux Olympiques.
Ou bien on se
fait une vraie compétition internationale. Et on en fait une date FIFA. C'est la concurrence de la FIFA.
Les Jeux Olympiques, on en fait une date FIFA. C'est réglé.
Voilà. On ne peut pas faire une compétition.
Parce que ça serait un concurrent à la Coupe du Monde. Ils n'en veulent pas. Infantino, qui est membre du CIO, qui en plus était là ce soir, qui a participé à la remise des médailles, mais ça m'agace. Quand tu vois qu'il y avait la présence d'un représentant de la FIFA par stade, qui ne servait à rien, ils s'occupaient de l'organisation du tournoi. Mais quelle organisation du tournoi? Accepter que ce soit dans le calendrier de la FIFA, ce serait un bond en avant, mais ils ne le feront jamais pour une histoire d'argent, de concurrence,
de sponsors
par rapport à la Coupe du Monde. Point barre. Malheureusement, ça n'évoluera pas.
C'est un aveu de faiblesse.
Bon. Oui, complètement. Complètement.
On fera
par contre, tu peux rajouter le futsal. Tu peux le rajouter.
Ah oui.
Pourquoi pas.
Ça a sa place, oui.
On a bien le volley et le beach volley.
Bah voilà, oui, c'est ça. Mais le foot, faut revoir quand même la formule. C'est pas possible. Merci Jeannot, merci Laure quand même et bonnes vacances.
Je suis quand même pas d'accord.
T'es toujours pas d'accord?
Non.
Pourtant, j'étais convaincant.
Non, je suis quand même pas d'accord parce que t'as des athlètes là qu'on découvre. Moi, ça me dérangerait pas, tu vois, qu'on dise définitivement le foot au jeu, c'est les moins de 23. Point.
Que des moins de 23.
Que des moins de 23, mais les meilleurs.
Bah pourquoi pas. Voilà. Si tu veux.
Ça me dérange pas.
On aura le même problème. Si les clubs les libéreront pas.
Oui. Si. On aura le même problème. Il faudrait faire évoluer les lois, enfin, dans chaque pays quasiment, mais il faudrait arriver à ça. Pourquoi? Parce qu'on découvre des joueurs. Et puis, moi, je suis désolé. J'aime les athlètes, voilà, c'est tout. Et quand je vois des personnes, quelles qu'elles soient, même si c'est pas les meilleures, se déchirer, se donner, se tuer, mourir sur le terrain pour aller décrocher une médaille, je me fais plaisir, ça me fait plaisir, et c'est bien pour eux parce qu'on voit leur talent qui peut éclore à ces moments-là. Donc le foot a sa place au jeu. Tu vois,
sinon, on fait comme avant, des amateurs. Que des amateurs. On fait une équipe de France d'amateurs. Voilà, on va chercher des mecs en national.
Il faut définitivement que tu fasses ça.
Avant, c'était comme ça, c'est un cadeau énorme, là,
c'est pas possible.
Va faire tes 42 bornes, réfléchis pendant. Je te jure.
Mais c'est pas moi, avant, c'était comme ça.
Mais oui, mais avant, tu vis dans le passé. Mais on s'en fout du passé.
On vit dans le passé, pour toi aussi. Comme ça, on se rappelle de tes exploits.
Moi, je vais demander à personne qu'on se rappelle. Moi, je vis dans le présent.
C'est vrai.
Bravo, Jean-Louis.
Bon, allez, merci Jeannot, merci Laure. Là, il y a les frères Lebrun.
Bonne clôture des Jeux Olympiques.
Merci Jeannot. Il y a les frères Lebrun sur le podium au Club France. Je peux vous dire, ça vaut le coup, hein. Ça vaut le déplacement. Hein. Ils sont à l'aise, comme moi sur un tatami.
Ils sont heureux, oui.
En gros.
Tu sais que tu seras pas si mal.
Ouais, je suis pas sûr.
On va essayer, tiens.
Non, merci. Enfin, pas avec toi. Non, mais.
Bah, et c'est avec moi que tu as le moins de risques, je te signale. Parce que comme je vais tout contrôler, tu te feras pas mal.
Ah ouais,
réfléchis à ça.
Oui, mais la peur.
Pense à ça pendant ton marathon.
Et la peur qu'il y aura dans ma tête.
Ah, mais ça,
tu la contrôles pas.
Non, mais c'est un truc perso. C'est toi qui l'as construit, la peur.
Ah,
tu peux la déconstruire.
Ah, c'est vrai.
Voilà, réfléchis à ça aussi pendant ton marathon.
Ouais, mais tu sais, j'aurais pas trop le temps.
Tu vas voir, les 42 morts, ils vont passer rapidement demain.
T'as tellement de trucs à penser.
Ça va aller.
En plus, il faut que j'écoute la finale du basket en même temps. Enfin, j'ai trop de trucs à faire. Bon, allez, le volet dans une seconde. Et le breakdance, est-ce que ça a sa place au jeu? A tout de suite.
RMC. L'After JO.
David Douillet, Jean-Louis Tour.
David Douillet et Yannick Bazin avec nous jusqu'à 1h du matin. Les temps forts du week-end, le week-end de finale olympique sur RMC. Ça va être formidable. Et la première de ces finales, c'est demain à 13h. La finale du volley, Yannick, face à la Pologne. La meilleure équipe du monde ?
C'est la France la meilleure équipe.
Ah là, ça c'est une bonne réponse.
Non mais la Pologne est un pays de volley.
Pologne c'est le plus grand pays de volley.
Voilà.
Tout simplement, avec le Brésil, avec l'Italie derrière.
Ils sont hyper dangereux.
Ils sont très dangereux. Mais on a une très très belle équipe.
Il dit ça maintenant, il disait pas ça au premier tour.
Non, il y a plein de choses à dire. C'est évident qu'après ce match contre l'Italie, évidemment ça change un petit peu. C'est évident, mais cette équipe, elle est quand même assez bluffante, je trouve, dans l'évolution.
La Pologne, c'est meilleur quand même que l'Italie.
La Pologne est un petit peu mieux en ce moment, c'est vrai que c'est un petit peu mieux, mais encore une fois, ça dépend des différents états de forme. On a vu l'Italie très très forte en début des JO, la Pologne un petit peu moins, qui a été un petit peu plus en souffrance, même si elle est passée facilement en quart de finale. Mais derrière, c'est vrai que la Pologne a eu ce petit step contre les États-Unis, elle a été en difficulté. Elle a réussi à passer ce cap des quarts de finale qui leur faisait défaut depuis très longtemps. Et depuis, on sent qu'il y a un poids qui a été mis de côté, côté polonais, et on les sent beaucoup plus libérés. Donc c'est une équipe évidemment très dangereuse.
Ouais, très dangereuse. Avec donc il y a un phénomène là. Wilfredo Leon, c'est ça ?
C'est le phénomène, ouais.
C'est le meilleur joueur du monde, lui ?
Ouais, c'est on va dire, cubain, enfin, polonais naturalisé.
Parce que c'est pas très...
Cubain naturalisé polonais.
Exactement, cubain naturalisé polonais, sa femme est polonaise. Mm-hmm. On connaît un petit peu l'histoire des sportifs cubains qui ont dû quitter Cuba pour pouvoir jouer dans les championnats européens. Lui, c'est ce qu'il a fait aussi. Derrière, il s'est marié avec une polonaise. Derrière, il a pris cette nationalité polonaise. Et derrière, il fait du bien cette équipe de Pologne, hein, tout simplement. C'est
et il peut nous faire de mal demain.
Oui, il peut nous faire du mal. Demi-finale, il fait 26 points contre les Américains. C'est lui qui fait la différence sur un poste où, logiquement, le même poste qu'Arvin Engapet.
Ouais.
Donc le poste de réceptionneur attaquant. C'est pas les joueurs qui ont le plus de ballons à l'attaque. Et lui en a énormément parce que physiquement, c'est un vrai athlète. Il attaque à 3,60 les ballons. Donc c'est vraiment très costaud. Par contre.
3,60 de hauteur ?
De hauteur, ouais. Exactement.
Oui, je sais que ça fait grand pour toi.
Bah pour toi aussi. Hein.
Bon, un peu moins quand même.
Oui, un peu moins, c'est vrai, mais ça reste 3,60 quoi. Dis donc. Il mesure combien ?
Il mesure 1,97. C'est pas le plus grand joueur, mais il saute beaucoup.
Il a une détente verticale de folie.
Il saute énormément.
Et comment on contre un mec comme ça ?
Bah, souvent, on le contre pas. On essaye de le ralentir au bloc, d'essayer de le défendre. Il y a toujours des petites stratégies, mais surtout là. Le gros souci qu'il a, lui, c'est que c'est un très bon serveur, très bon attaquant. Par contre, en réception, il est un peu plus en difficulté. Donc, il va être visé, évidemment, par les serveurs français. Et souvent, quand tu arrives, entre guillemets, à mettre la réception un peu loin du filet, bah, tu arrives à mettre un bloc formé en face de lui.
D'accord.
Là est toute la stratégie, et ça va être la difficulté des Français, c'est de mettre en difficulté la réception polonaise demain.
D'accord.
Bon.
Et sur les dernières confrontations, quand on les a jouées, ça donnait quoi ?
Bah, ça a été plutôt pas mal pour les Français, même okay. si ça a été plutôt pas mal, mais c'est, je dirais, du 50-50, parce qu'ils nous ont battu récemment à la VNL sur un tournoi, on va dire, pas très important. Avant, on les avait battus sur un euro. Donc bon, c'est du 50-50.
50-50 pour une finale.
Plus le pourcentage du public.
Et oui.
Et quel pourcentage c'est public de, à l'Arena Sud.
Il paraît que sur le volet, c'est la plus belle ambiance des jeux.
C'est juste dingue. Bon, si on pose la question à chaque site, ils vont nous dire que c'est la plus belle ambiance. Mais c'est vrai qu'au volet, c'est assez incroyable depuis le début de la compétition. Et je trouve encore plus depuis les demi-finales où on a senti que même les supporters avaient senti que la France pouvait être en difficulté contre cette équipe d'Italie. Mmh. Et dès le début du match, il y a eu une vraie pression du public français.
Mmh. Bon, bah, ce sera demain à 13h. Ça va être magnifique.
Ça va être dingue.
Ah oui, ça va être dingue.
On y sera.
Ça va être dingue et c'est la première finale demain, donc réveillez-vous. Regardez bien cette finale.
Réveillez-vous à 13h.
À part pour Jean-Louis qui sera.
Ah, moi, je suis complètement décalé en vue du marathon, donc ça. Je mettrai mon réveil. Exactement, t'as tout compris, David. Demain, 13h. Nico Bayou est chaud pour commenter ?
Ah, Nico, il est bouillant.
C'est bien, c'est parfait.
Il est toujours bouillant, le Nicolas Bayou.
Ça va être magnifique. Pour peut-être quand même garder le titre olympique. Hein. Mmh. Ça, dans un sport co, c'est une performance exceptionnelle.
Oui, il faut savoir qu'il n'y a que deux équipes qui ont réussi à le faire, hein, l'URSS à l'époque. Et aussi les Américains. La France serait la troisième équipe à pouvoir remporter deux fois d'affilée les JO.
Bon, c'est ce qui va nous arriver demain.
Et voilà. On va se régaler demain encore grâce au volet. En revanche, je ne sais pas, vous avez regardé le breaking aujourd'hui ? Donc le breakdance, c'est la nouveauté. Donc oui. On a vu les premières images.
Oui.
Voilà. Vous êtes régalé ?
Ah bah, s'il pouvait y avoir ce son-là pour le breakdance, ça m'aurait régalé.
Il y avait
la
pas
musique,
ça
c'était pas la même.
Je suis resté un peu sur ma faim.
T'es resté sur ta faim. Bah alors écoute, on va en parler avec Valentin Germain, qui donc est passé de l'Euro de foot à l'escrime, et il se retrouve là à commenter le breakdance. Valentin, bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous.
Salut Valentin.
Bon, est-ce que sur place, tu partages un peu le scepticisme qu'on peut avoir en regardant la télé ?
Alors, ou plutôt oui, parce qu'en fait, je pense que notamment beaucoup de spectateurs ou de téléspectateurs s'attendaient à une discipline peut-être un peu plus, on va dire, spectaculaire, avec exactement. Des figures. Voilà, exactement, exactement ce qu'on peut s'imaginer du break dans les films, hein, par exemple, oui. Où on fait des saltos, on tourne sur la tête, etc. Et en fait, c'est pas ce qu'on a vu. On a vu des figures un peu plus lentes. Alors peut-être que dans le milieu, hein, qui sont plus techniques, plus difficiles à faire, qui correspondent plus à ce qu'attendent les juges. Mais pour le grand public, effectivement, et c'est la sensation qu'il y avait sur la première session. C'était la session de poule pour les féminines à 16h. Et ben, le public, il y avait 5000 personnes et ils étaient sur leur faim. Et du coup, les MC, les maîtres de cérémonie, ils n'étaient pas vraiment. Il n'y avait pas de réponse du public. En fait, quand ils lançaient le public, c'était un petit peu mou. Et je pense que les gens ont peut-être été un petit peu déçus du manque de spectacle pur de ce que proposaient les danseuses. Même si, quand on a un petit peu interrogé les spectateurs, ils étaient contents, ils parlaient de l'ambiance, ils parlaient de la nouveauté, ils trouvaient ça quand même assez impressionnant. Mais pas mal de personnes, je pense, s'imaginaient quelque chose d'un peu plus spectaculaire, peut-être qui se rapprochait un peu plus presque de la gym, je sais pas. Donc, globalement, c'est plutôt un avis qui semble assez partagé.
Oui, c'est ça. Enfin, ou alors parce qu'on n'a pas vu de compétition. Moi, je suis arrivé à froid. Je veux dire que c'était la première fois que j'en voyais. Donc, je m'étais imaginé autre chose, quoi. Donc, je suis resté un peu. Voilà, j'attendais plus de spectacles, plus de musique.
Pour toi, ça a sa place au jeu, une discipline comme ça ?
C'est difficile à dire. Moi, j'ai pas suffisamment de recul ni de culture. Sur cette discipline pour te répondre.
Personne n'en a pour le coup.
Globalement, moi je te dis que toutes les disciplines, tous les sports ont leur place au jeu, quelles qu'elles soient. Voilà. Globalement. Après, faire le distinguo. J'ai pas suffisamment d'expertise pour faire le distinguo entre la proportion sportive et la proportion artistique, tu vois. Et je sais pas de quel côté ça balance, tu vois. Voilà, je sais pas, je suis entre deux eaux.
C'est un peu le débat depuis le début, parce qu'il y a beaucoup de gens. Le break, c'est là-bas, c'est un art urbain, c'est plutôt un mouvement qu'on peut lier au graff, qu'on peut lier au hip-hop. C'est né aux États-Unis dans les années 60, et c'est arrivé en France dans les années 80 sans être vraiment un sport. En fait, c'est à la base, c'est pas considéré comme un sport. Et en fait, depuis qu'ils l'ont intégré aux Jeux Olympiques de Paris, c'était en 2019-2020, ils ont dû tout créer. Donc la raccrocher à la fédération française, créer une équipe de France, des championnats de France, des championnats d'Europe, des championnats du monde, des critères, des juges. Et à la base, c'est vrai que c'est
fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Si c'est un sport pour personne à part pour le CIO, fin de l'histoire.
Honnêtement, des fois on parle aux athlètes et je vous jure que la sensation, c'est même un peu que eux, ils sont contents d'être là au JO, l'expérience elle est top, le public, etc. Mais ils sont aussi très contents de faire des battles dans des festivals où il n'y a pas de médailles. Ouais, c'est vrai, hein, c'est un art, enfin c'est un mouvement en fait, mais c'est difficile à classer.
Ouais, et puis c'est pas encore inscrit dans leur culture non plus. Donc si c'est aussi jeune que ça, c'est moi j'ai l'impression que et je respecte tout à fait je critique pas la discipline, hein, mais j'ai l'impression que il aurait peut-être fallu demander à ceux qui le pratiquent s'ils ont envie de venir aux Jeux Olympiques, si ça leur paraît logique ou pas, parce que j'ai pas l'impression que ils sont dans l'esprit, quoi, tu vois. Je suis assez dubitatif, quoi, voilà.
Alors, en sachant que on n'est pas fermé, on n'est pas fermé au niveau sport, on n'est pas des vieux, tu vois. Mais non, mais par exemple, tu vois, le surf, on aurait pu être dubitatif. À l'arrivée, c'est une vraie performance physique, il y a un vrai duel, il y a une part de notation, mais il y a aussi une part sportive, je trouve.
Mais derrière, on a des compétitions de surf.
Il y a des compétitions,
donc on sait comment c'est noté, on comprend un petit peu.
Là, on force un peu, en fait, tu vois.
Tu vois, moi, je fais partie de ceux qui aimeraient que les échecs fassent partie des jeux, toi. Par exemple.
Alors là, c'est un sport cérébral.
Oui, et alors ?
Si tu veux.
Pour te donner mon ouverture d'esprit, tu vois.
Ah oui, c'est un peu.
Donc ça me dérange pas cet essai du break là au jeu et voir si ça mord ou pas. Pourquoi pas ? Parce qu'on s'adresse à une population qui ne serait peut-être pas venue dans une discipline sportive classique. On s'adresse à un autre public qui fait des vraies performances physiques dans lequel il y a de la technique, etc. Donc faut que le sport ça puisse s'adresser à tout le monde. Maintenant, est-ce que ils ont vraiment envie de se contraindre à être dans un système de compétition, etc. J'en suis pas sûr. Faut leur poser la question.
Et puis d'ailleurs, ils savent déjà que dans 4 ans,
exactement,
ils sont
ça
plus
joue.
Là.
En plus, oui.
Dans 4 ans, ils savent qu'ils sont plus là. Donc, j'ai envie de te dire.
Oui, ils ont déjà fini dans 4 ans.
Non mais l'aspect c'est intéressant, l'aspect en fait les gens viennent et même nous enfin on a travaillé, mais en fait les gens viennent, il y a 9 juges, il y a 5 critères dont on a parlé, c'est la technique, le vocabulaire, l'originalité, l'exécution, la musicalité, mais les gens viennent et ils savent même pas vraiment pourquoi ça s'allume en bleu, pourquoi ça s'allume en rouge pour tel ou tel athlète.
C'est-à-dire le vocabulaire,
parce qu'on n'est pas cultivé.
Le vocabulaire, c'est la diversité de ce que tu vas proposer en break. Il y a plusieurs types de figures, il y a plusieurs types de power moves, Jean-Louis.
Et
la diversité de ce que tu vas proposer.
Vous voyez pas la tête de Jean-Louis au studio.
Non, mais j'essaie de comprendre.
Là, tu joues ton vieux schnock.
Mais non, j'essaie de comprendre quelque chose.
Ouvre ton esprit.
Mais je suis ouvert à plein de trucs.
Ouvre tous tes chakras et ne sois pas dans le jugement.
Non, c'est pas que je suis dans le jugement.
Si, tu y es.
C'est que à partir du moment où tu prends la place de discipline comme le karaté, qui était très content d'être là, c'est un vrai sport avec opposition, etc. Bah là, pour un truc où ils ont même pas envie d'être là, d'être même pas faire de la compétition.
Non,
excusez-moi, il y a un problème quelque part. On comprend même pas comment c'est noté. Le public comprend rien à l'histoire et ils ont pas envie d'être là. Mais qu'est-ce qu'on fait?
Non, mais c'est pas qu'ils ont pas envie d'être là.
À moitié, tu nous as dit, ils veulent pas faire la compétition.
Non, mais ils sont très contents d'être là et notamment par exemple, Big Girl Sissi qui était là, elle avait 16 ans, donc elle a quasiment, connu que ça. C'est sa première grande compétition. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un vrai clivage au sein du break entre les anciens qui trouvent que c'est un art et en fait, qui trouvent qu'ils ont pas à être dans une case fédérale où il y a des critères, où il y a des juges, où il y a des trucs, machin. Là, typiquement, l'ambiance, elle était aussi moyenne parce que normalement, dans des battles, vous avez la scène qui est ronde et il y a du monde autour qui est debout et qui fait des signes avec les bras, qui encourage. Là, comme c'est les JO, la réalisation télé, il y a un vide en fait autour et ça rend pas la même atmosphère aussi, vous voyez. Après, les gens, on a rencontré des gens, on a interviewé des gens après.
Oui, du public.
Et globalement, en tout cas, les téléspectateurs avaient pas l'air conquis. Le public qui était dans les gradins était plutôt content de ce qu'ils avaient vu.
Bon, tant mieux. Mais peut-être qu'à l'avenir.
Attends, on peut les écouter.
Ah, pardon.
Ouais, j'ai bien aimé, ouais.
Pourquoi ?
Parce que c'était dynamique, il y avait Il y a une belle ambiance et tout.
Cool. Ouais, c'est l'ambiance, la compétition aussi. Puis je trouve que c'est un peu frais, c'est sympa quoi.
Et ça change en fait, c'est vraiment assez différent de ce qu'on voit au JO habituellement.
Ok, merci messieurs.
Ouais, moi j'ai complètement découvert et ouais, j'ai beaucoup apprécié. L'ambiance, beaucoup de musique, c'était très vivant. Enfin, j'ai tout aimé. Après, je me suis pas renseigné suffisamment pour savoir comment ça juge, mais bon, comme tous les sports au JO, la moitié des sports au JO, j'y comprends rien.
Pas besoin.
Si c'était vraiment avec ça qu'il fallait évaluer, ce serait difficile.
C'est vrai qu'il y a plein de sports qu'on comprend pas.
Non mais ouais, je pense que peut-être que le CIO devrait accepter des disciplines, ou en tout cas essayer des disciplines qui ont déjà une activité de compétition lancée déjà depuis un certain temps, ce qui était apparemment pas le cas pour cette discipline.
Ouais.
Tu vois, au moins qu'il y ait des gens qui soient rompus à la compétition, qui aient cet esprit-là, etc., etc., et qu'ils se retrouvent pas un peu comme des cheveux
mais
sur la soupe.
Mais surtout pas sur un one shot. Ouais, les mecs commencent la compétition, ils savent que dans 4 ans, il y a
souvent le cas. C'est souvent le cas, on essaye des disciplines comme ça. Et les jeux, c'est plutôt bien, je trouve qu'on ouvre une porte, bon, bah, elle se referme aussitôt, elle aurait pu rester ouverte, pourquoi pas.
Elle aurait pu rester fermée aussi. Donc, en 2028, il y aura notamment le football flag.
Ouais, bon, alors ça, c'est.
Le football américain, mais avec des drapeaux. Là.
Ouais, super. Alors, on va se courir après, on va se tirer les slips, etc. C'est ça.
C'est pas loin d'être ça.
Non, mais par contre, sur le karaté, là, ouais.
D'ailleurs, la fédé de karaté a tweeté.
Il y a un vrai problème avec ça.
Hein. Ils ont dit, bon, on n'a rien contre le breakdance, on en fait un peu aussi, mais quand même, ça fait un pincement au cœur de plus être là. On pense notamment à Steven D'Acosta, qui était champion olympique à Tokyo.
Bien sûr. Mais enfin, le karaté, c'est une vieille histoire. Ça date, hein. On peut remonter même jusqu'à Séoul, où le taekwondo prend le pas sur le karaté pour des raisons très obscures. Tu vois, je vous rappelle que Corée est le créateur du taekwondo. Mm-hmm. Bon, voilà, il y a une petite cause à effet qui est des influences dans les couloirs qui ont dû jouer fortement pour que ce sport devienne olympique. Et tant mieux, parce que c'est devenu un sport pratiqué dans le monde entier. Ça, c'est aussi c'est l'effet géo. Sur les sports qui, au départ, peuvent être cantonnés qu'à quelques nations, l'effet géo permet de développer une discipline sportive au niveau mondial. Ça, c'est vachement bien. Ouais. Mais le karaté a encore toute sa place au jeu, pour moi, puisque c'est de facto un sport mondial depuis longtemps, depuis très longtemps. Ouais. Un sport dans lequel il y a des compétitions. Donc, moi, je suis un peu déçu aussi que le karaté ne fasse plus partie des JO. J'aimerais qu'ils reviennent. J'espère qu'on les retrouvera, parce qu'ils ont toute leur place, ils ont toute la légitimité d'aller aux JO, et on l'avait vu à Tokyo.
Et puisqu'on est là pour faire de la pédagogie, pourquoi tout le monde s'appelle B-Boy ou B-Girl, Valentin, dans ce truc-là ?
Eh bien, alors, faut voir ça un petit peu comme des personnages. C'est ce que nous disait d'ailleurs B-Boy Danny Dan, qu'on va voir en compétition demain. Non à la vie Danny Civil, mais en fait, le B du début de B-Boy, c'est pour break, et puis boy, garçon, et girl, fille, donc B-Boy. C'est le nom un petit peu du personnage. C'est comme ça qu'il s'appelle en fait. Il faut vraiment voir ça comme un nom de scène finalement. Parce qu'encore une fois, on est dans un mouvement, dans un art. Et plutôt que de l'appeler juste Danny Dan ou Danny, on va l'appeler B-Boy. Et juste pour terminer, l'idée, c'était le break était aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2018 en Argentine. On l'avait testé. Tony Estanguet y était allé. Thomas Barr, le président du CIO, y était allé. Ils avaient trouvé ça super. Ça avait bien marché. Ils voulaient un peu rajeunir les Jeux. Et voilà, on est toujours aussi dans la logique de casser les codes, d'essayer de rajeunir un petit peu le public. Et c'est pour ça qu'on s'était dit que le break pouvait être une bonne idée. D'ailleurs, c'était avant la médaille d'or de D'Acosta au karaté, malheureusement.
B-Boy la douille. On t'attend.
Exactement.
David.
B-Boy la douille.
La douille, bien sûr. Excellent. Ça fait peur en plus.
Vous allez me voir.
Il faudra tous qu'on se donne un nom de B-Boy pour les crâne, émissions.
Là, vous avez
J'attends de te voir faire la coupole.
J'ai déjà
au sol,
fait,
là.
Mais j'ai pas fait exprès.
Et alors, est-ce que vous avez vu les 5 nouveaux sports qu'il y aura à Los Angeles ? Donc, je vous ai dit le football flag.
Du baseball, non ?
Le baseball, exactement.
La pétanque ?
Non, pas la pétanque. Le squash.
Ah, ça, c'est bien.
Ah oui, vrai sport, là, pour
là, ça, c'est bien.
Le lacrosse et le cricket.
À tes souhaits. Le cricket, oui, c'est bien.
Voilà. Donc,
lacrosse, je connais pas.
Bah, lacrosse, c'est pas une sorte de hockey sur gazon, non ? Un dérivé du hockey sur gazon ? Un truc qu'on fait au Royaume-Uni ?
Je ne sais pas.
Bon, je vais vérifier ça.
Mais de toute façon, ça a toujours été le cas. Si le karaté était arrivé à Tokyo, c'est parce que c'est un sport à l'origine japonaise. Chaque pays y amène aussi.
Ça, je trouve ça bien.
Tu vois, un de ses sports pour les faire un peu plus connaître, etc. Peut-être que le football flag est très intéressant, j'en sais rien.
Super, probablement.
Tu vois, ça m'a fait rigoler. Bien sûr.
Non, on fera un match de football flag.
On regardera comment ça, mais ça sera peut-être très bien, j'en sais rien. Mais je trouve que il y a un aspect des JO pour faire découvrir autre chose qui est important. Exactement. Globalement, tu vois, pour
culture différente, bah oui, en fonction des continents, oui, oui, où les JO se passent, hein, tout simplement.
Ce sont des jeux modernes. Voilà, ils doivent le rester, mmh, modernes.
C'est un peu trop moderne là, pour le coup. Est-ce qu'au moins on a une chance de médaille dans ce
bien
truc,
sûr, Jean-Louis, bien sûr. Ah bon, B-Boy Danny Dan à surveiller demain. B-Boy Danny Dan qui avait décroché son ticket il y a longtemps, il y a un an, parce qu'il avait gagné les Jeux européens. Donc c'est vraiment une pointure. Il a été également numéro un mondial. Il est vraiment reconnu. Donc franchement, c'est une vraie chance. Et il a en plus eu du coup un an un petit peu pour se préparer et nous expliquer. Il a pu bien observer ses adversaires. Et encore une fois, c'est là où la frontière est un peu compliquée. Mais justement, on l'a pas vu quasiment pendant un an sur le circuit fédéral, parce que bah il a préféré faire un petit peu des battles dans des circuits plus urbains ou en tout cas moins connus du grand public, pour bien se préparer physiquement dans la danse, etc. Donc il va revenir, et c'est pour ça que je dis ça, parce qu'il est classé du coup un petit peu plus loin maintenant, mmh, puisqu'il a pas fait de circuit fédéral. Mais c'est une vraie chance de médaille. Au moins, on espère des demi-finales, parce que on parlait de Big Girls ici tout à l'heure, la française. Elle était en bronze aux mondiaux, donc ça pouvait être une chance de médaille. Et demain, Danny Dan, c'est vraiment le fer de lance du break français. Et à domicile, il a vraiment, on l'a vu avant la compétition, il a vraiment envie de gagner, il a vraiment envie de battre ses adversaires. Et c'est une vraie chance de monter sur le podium du break au JO.
Très bien,
Jean-Louis.
C'est la magie des jeux, on sera
Danny Dan. C'est lui qui nous apporte la 60e médaille, t'aurais l'air malin.
Ah oui. Dans 60, c'est bon, c'est la 61e. Ouais, ah mais si on dépasse une équipe grâce à son titre olympique. Voilà. Ah mais Danny Dan dans le club France là, et voilà, je m'excuse auprès de lui.
Voilà.
Je dis bravo, l'interview de Danny Dan, de B-Boy Danny Dan par B-Boy Jean-Louis. Ça, je veux l'interview.
Je serai là. Merci Valentin Jamin. Avec je t'appelle plaisir. Pas encore avec ton nom de B-Boy, on fera ça plus tard.
Après les jeux, après les jeux.
Après les jeux. J'ai quelques infos à donner. Et notamment, peut-être un débat qu'a mis Thomas Barr sur la table. Même si je retrouve pas mon papier, mais c'est pas grave. Si, est-ce qu'on n'arrêterait pas les Jeux en été à cause du réchauffement climatique? Est-ce qu'il faut pas se poser la question? Thomas Barr, donc le président du CIO, l'a dit. Il va falloir reparler des dates, parce qu'avec les changements climatiques, ça peut être très difficile d'organiser des Jeux en été. Avec le réchauffement climatique, on a dû adapter, par exemple, l'heure du début du marathon. On devra étudier cette question et ça pourra avoir plein d'imbrications avec le calendrier des fédérations fédérales, etc. Mais peu importe le lieu, va falloir peut-être se poser ce genre de questions.
Du coup, il fait les JO d'hiver en Arabie Saoudite.
Oui, alors là c'est autre chose, mais qu'est-ce que t'en penses, David? Est-ce que c'est aux sportifs de s'adapter au temps, au climat, parce que c'est la vie, c'est comme ça, peu importe où, ou est-ce qu'il faut adapter ce calendrier?
Déjà, il faut pas que ça soit préjudiciable pour la santé des athlètes. Mm-hmm. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, le temps est le même pour tout le monde, tu vois. Voilà, bon, donc ça, mais faut pas que ce soit préjudiciable. Troisième chose, ça dépend où tu les fais. Tu vois, t'as des pays qui sont plus exposés à la chaleur que d'autres, donc tout dépend de l'endroit, voilà. Donc je pense que c'est plus une histoire de lieu qu'une histoire de saison, parce que t'as des endroits qui sont tout à fait acceptables pour faire des Jeux Olympiques d'été en plein été, et d'autres qui le sont pas du tout.
Oui,
sincèrement.
Oui, bien sûr.
Quand il fait 50 degrés, tu peux pas faire les Jeux, quoi. C'est clair.
C'est sûr.
Donc, t'es obligé de les décaler.
Ah, tu peux faire une Coupe du Monde au Qatar.
Oui,
bah, mais ça n'a rien à voir.
Oui, non, mais tu vois bien le bazar que ça a été d'organiser la Coupe du Monde au Qatar hiver.
Une Coupe du Monde de foot, c'est une discipline. Il y en a 40, là.
Ouais.
Le championnat du monde.
Ça fait du monde, hein.
C'est-à-dire 40 calendriers à adapter sur les deux années avant, oui.
Mais il a raison de poser ça sur la table, ça, c'est sûr.
Bon, on ne l'imagine pas quand même.
Et puis, la question se posera pour les Jeux d'hiver, aussi, hein. Avec
bien sûr.
Comment tu les fais dans le futur? Comment ça se passe?
Ah, oui.
Où est-ce que tu les feras?
Exactement. Mais l'été, c'est bien quand même. Quand les gens sont en vacances et tout, il y a une tradition autour des jeux. Bon.
Oui, mais tu peux le décaler.
Public, c'est pas mal quand même. Hein. Si tu fais ça en pleine saison.
Enfin, je pense que dans son idée, il peut peut-être les décaler sur septembre ou en juin, tu vois. Pas que ce soit au cœur du truc où ça plombe le plus. Mais moi, j'ai plus de. Parce que là, j'ai plus d'interrogations et plus de sur les jeux, sur le JO d'hiver. Je pense que ça peut arriver beaucoup plus vite. La question à savoir, est-ce que tu vas pouvoir continuer à faire des JO d'hiver?
Exactement.
On fera ça où il y a de la neige, hein, tout simplement.
Bah oui, mais où?
Ah, quand même.
Et à quelle altitude? Parce que si demain t'as de la neige à 3000, c'est pas pareil, quoi. Mais, enfin, c'est compliqué, quoi.
Ah, c'est une vraie question.
Ouais, c'est une vraie question.
Autre info aujourd'hui. Donc, bon, on l'a suivi tout à l'heure, le combat avec Morgan Mori et Maïva Madouche. Mais donc, la boxeuse algérienne qui a tant fait parler, hyper androgène, Iman Khelif, est donc sacrée championne olympique des moins de 66 kilos. Elle a battu la chinoise Yang Liu en finale et elle a été portée en triomphe par ses coachs. C'était une image hyper sympa. Et à l'arrivée, bah voilà, ça, toutes ces deux semaines de polémiques qu'elle a vécues, qui ont dû être dures à encaisser, finissent bien.
Ben oui, tant mieux. Tant mieux, faut qu'on arrête de l'embêter, cette
personne. C'est ça.
Franchement, mais la bêtise humaine.
Qu'est-ce qu'elle a dû en chier pendant deux semaines, là, tout ce qu'elle a pris, là, c'est juste incroyable. Je suis content pour elle, hein, qu'elle puisse gagner, qu'on puisse mettre ça un petit peu de côté, là, et qu'elle puisse profiter de ça en famille, avec son pays, tout tranquillement, parce que là, c'est terrible.
Exactement. Et puis, il y a une autre image marquante, c'est justement sur le breaking, donc, au jeu, puisque l'athlète afghane a montré un message politique, Manisha Talash, pour la liberté des femmes en Afghanistan. Elle a 21 ans, elle est originaire de Kaboul, elle figure donc dans l'équipe olympique des réfugiés, mais elle est arrivée avec un message Free Afghan Woman pour sensibiliser au maximum les gens à la cause des femmes dans son pays. Donc voilà, on essaie de dépolitiser les jeux, mais parfois ça sert aussi
pour moi, c'est pas un message politique.
Non, remarque, c'est pas politique, c'est pour les droits de l'homme.
Bah oui, avant tout, c'est pas de la politique, ça.
T'as raison, et si les jeux peuvent servir à ça aussi.
Mais ça doit servir à ça. Déjà, le fait que. Moi, pour moi, l'avenir du sport mondial, c'est à travers la pratique des femmes. Il faut que. Pardon. Il faut que dans le monde entier, toutes les femmes qui veulent faire du sport puissent le faire, en toute liberté. Et c'est ça l'avenir du sport mondial.
Exactement, t'as raison. Et ça suivra l'amélioration des conditions de vie partout, et également l'amélioration des droits de l'homme dans tous les pays.
Mais bien sûr, c'est évident. Mmh. Et ça encouragera à la pratique sportive globale. Il y a des pays qui ne sont pas suffisamment évolués sur ces sujets, et il y a beaucoup de participantes, beaucoup de femmes qui nous manquent dans le sport.
Elle a dû faire face à son camp d'entraînement a été cible de deux attentats. Et du coup, elle a dû fuir son pays pour rejoindre le Pakistan, puis l'Espagne, et arriver donc au JO sous la bannière donc,
On a encore beaucoup de travail pour arriver à ce que ça n'arrive plus jamais.
Voilà. Toutes ces infos sur rmcsport.fr, notamment aussi les infos sportives. Hein, on y est pas revenu en détail, mais il y a notamment en golf, la française est en difficulté, mais il y a quand même un petit espoir de médaille pour demain, pour Boutier.
Oui.
Il y a aussi la suite du pentathlon moderne dans le week-end avec les Français, que ce soit chez les hommes ou chez les dames, qui sont pas mal placés. Donc ce sera à suivre bien sûr tout au long du week-end, en plus des finales de Sportco. Je vous rappelle demain le samedi incroyable qu'il y aura sur RMC. L'intégrale Paris 2024 sera mobilisée autour de la finale du volley à 13h France-Pologne, puis la finale du handball féminin à 15h France-États-Unis à 21h30. Grosse soirée d'athlée également entre 18h et 20h30, il me semble. Jean-Christophe Drouet sera au Stade de France demain pour, on l'espère, les médailles pour Gabriel Tual, pour Samba Mayela. Et puis, la quatrième finale, ce sera dimanche, donc, pour le basket féminin, puisque les filles ont battu la Belgique cet après-midi. L'intégrale Paris 2024, donc, est de retour demain. Merci Yannick Bazin, merci David Douillet.
Merci Jean-Louis. Et merci Jean-Louis. Bon marathon.
Oui, merci. On s'en reparle après. Hein.
Tout bon, comme on dit.
Si je peux encore parler. Allez, ciao.
RMC. L'After JO.